Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
6h58, excellent réveil à tous. Nous sommes le mardi 25 novembre. Soyez les bienvenus dans Apolline Matin. 764 décès l'an dernier, 764 personnes qui sont mortes dans un accident de travail. C'est un chiffre record. Malaise, accident de la route, mais aussi chute ou manutention qui virent au drame. Les transports, l'énergie, le BTP, voilà les trois secteurs du triste podium. Dans 10 minutes, je reçois une femme dont le mari est mort dans une laverie industrielle en 2020. Il faut davantage protéger les salariés et sanctionner plus lourdement les employeurs. Voilà son parti pris, vous l'entendrez donc à 7h10. Ça vous fait réagir? Est-ce que vous vous sentez en danger au travail ou est-ce que vous avez déjà vécu un accident du travail? Je vous attends au 3216 ou sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. Et puis j'attends aussi vos témoignages et vos réactions sur cette proposition de loi des Républicains interdire le voile aux jeunes femmes mineures. Pour, contre, le 3216. Et puis à 8h30, je recevrai le ministre du Logement, notez-le dès à présent, c'est Vincent Jeanbrun, et venez l'interpeller, il veut mettre fin au HLM à vie. Vous êtes dans un logement social ou vous êtes en attente d'un logement social, appelez-nous là encore au 3216. C'est parti pour Apolline Matin, dans un instant le journal, mais tout de suite la météo. Et Géraldine, il fait plus frais et de la pluie, enfin bref, comme hier quoi.
Un petit peu comme hier.
Voilà. Alors,
un peu moins de pluie quand même, là ça va être sous forme d'averse, mais oui, il y en aura pour pas mal de monde entre les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, le Nord-Est, les Hauts-de-France. En montagne, c'est de la neige dès 600 mètres, hein, d'assez fortes chutes de neige sur les reliefs de l'Est. On aura quand même de belles éclaircies vers la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, du soleil sur le pourtour méditerranéen avec du vent. C'est vrai que les températures baissent un peu cette saison ce matin. On sera un petit peu en dessous cet après-midi. Il fera 6 à 12 degrés du Nord-Est jusqu'au Sud-Ouest, 13 à 17 près de la Méditerranée.
La météo sur RMC avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Omiris, un service opéré par EPS Agri-CNAPS.
Il est 7h, tout pile. Très bon réveil à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le plan d'aide de l'État aux viticulteurs, une enveloppe de 130 millions d'euros pour l'arrachage des vignes. Interdire le voile aux mineurs dans l'espace public, c'est l'une des 17 propositions choc de la droite sénatoriale qui s'attaque à la montée de l'islamisme. Et l'OM déjà au pied du mur en Ligue des Champions ce soir face à Newcastle.
130 millions d'euros, chèque du gouvernement pour sauver la viticulture en France.
Un plan de sortie de crise pour ce secteur en grande difficulté, détaillé par Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, hier soir à Montpellier. Il prévoit l'arrachage définitif des vignes réclamées de longue date par la profession, Cassandre Brault.
Oui, l'objectif est de rééquilibrer l'offre en aidant les exploitations à arracher leurs vignes. Elles produisent encore trop de vin alors que la consommation est en baisse. Depuis plusieurs années, les vendanges sont également impactées par les effets du changement climatique. À cette enveloppe de 130 millions s'ajoutent 10 millions d'euros d'allègement de charges sociales. Enfin, pour permettre aux viticulteurs de souffler et d'étaler leurs dettes, le gouvernement prolonge dès 2026 des prêts garantis en partie par l'État. Des réponses satisfaisantes pour Jean-Marie Fabre, président des vignerons indépendants de France.
Maintenant, il faut aller vite parce que l'urgence, c'est aussi de pouvoir mobiliser ces outils au-delà de l'annonce. Il nous faut aller très vite sur le prêt de consolidation bancaire pour qu'il soit mobilisable dès le 1er janvier. Il nous faut aller très vite sur le dispositif d'arrachage, de recalibrage du vignoble parce que c'est une nécessité qu'attendent les exploitants. Tout ça va dans le bon sens. C'est maintenant dans la mise en œuvre et dans la rapidité de cette mise en œuvre qu'on est en attente.
Enfin, la ministre de l'Agriculture demande à la Commission européenne d'activer sa réserve de crise et de débloquer des fonds pour venir en aide aux viticulteurs français.
L'agriculture, c'est l'une des 5 priorités absolues avec la sécurité ou encore l'énergie pour Sébastien Lecornu, soumise au vote spécifique non contraignant des parlementaires dès la semaine prochaine. Nouvelle méthode du Premier ministre qui entend surmonter les blocages sur le budget et trouver des compromis thème par thème. Les débats sur le budget qui se poursuivent ce mardi au Sénat avec la suspension de la réforme des retraites au programme des sénateurs.
Mieux former, mieux détecter, mieux prévenir. Le gouvernement a détaillé hier ses 53 mesures législatives pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Et c'est la journée internationale de lutte contre ce fléau aujourd'hui. Occasion pour la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, de co-signer avec Vincent Jeanbrun, ministre du Logement. Votre invité, Apolline, à 8h30 ce matin sur RMC BFM TV, une circulaire. Circulaire destinée aux préfets. Elvis Célestin Bougère a rappelé les principes d'accès aux hébergements d'urgence pour les victimes de violences conjugales et de leurs enfants. C'est une information RMC.
Oui, de l'identification des victimes à leur relogement. Le gouvernement demande au préfet d'appliquer un parcours identique dans chaque département en garantissant déjà un accès à un logement d'urgence, même si les services habituels sont indisponibles. Des hébergements non mixtes avec de la vidéosurveillance et un digicode pour garantir leur sécurité. Concernant les relogements pérennes, la circulaire demande que les victimes de violences soient prioritaires pour accéder à des logements sociaux. C'est déjà prévu par la loi, mais cela requiert une décision de justice qui est souvent très longue à être prise. Contactée par RMC, une association de lutte contre les violences faites aux femmes souligne qu'il faudra des moyens supplémentaires pour appliquer ces mesures. De son côté, le gouvernement rappelle que les crédits pour l'hébergement d'urgence inscrits au budget 2026 sont en hausse de près de 110 millions d'euros. Encore faut-il que ce budget soit voté et promulgué d'ici le 31 décembre.
Un éternel débat à droite, la question du voile. Cette fois, ce sont les mineurs qui se retrouvent dans le viseur des Républicains et de leur patron, Laurent Wauquiez. Il a déposé hier une proposition de loi visant à interdire le port du voile pour les plus jeunes dans l'espace public, ciblant les parents qui l'imposent ou l'autorisent. Les sénateurs de droite, eux aussi, souhaitent l'interdiction du voile pour les mineurs de moins de 16 ans. C'est l'un des points de leur rapport pour lutter contre l'islamisme. Si ces propositions jugées inconstitutionnelles par certains juristes ont peu de chances d'aboutir, la question divise ces musulmans rencontrés par Martin Bourdin et Louis Salé.
Le foulard noir qui encadre son visage, Marius, 19 ans, l'a porté quelques mois quand elle était mineure avant de l'enlever, puis de l'ajuster à nouveau sur ses cheveux depuis qu'elle a 18 ans.
C'est mon choix et que mes parents ils m'ont pas dit « ouais, tu dois le mettre » ou quelque chose comme ça. Moi, je vote d'après ma famille. Ils nous ont jamais dit « oui, il faut obliger de le porter ». Moi, ma sœur, elle est plus grande que moi, elle a jamais porté le voile. Mais c'est vraiment un choix.
Elle n'aurait donc pas compris que ses parents lui interdisent. D'ailleurs, pour beaucoup de parents comme Nadia, maman de 3 enfants, interférer dans cette décision n'est de toute façon pas envisageable.
C'est pas possible. On vient pas me dire à moi comment je dois faire avec ma fille. Pour moi, c'est juste une liberté. Une fillette de 5 ans, en effet, elle n'est pas consciente de ses gestes. Mais une enfant de 10, 11 ans, elle a quand même sa tête et elle est quand même libre de décider.
Mais pour d'autres, comme Mohamed, papa de jumelles, interdire le voile aux mineurs est simplement une manière de les protéger.
Pourquoi à 15 ans, elle porte le voile? Pourquoi? C'est le méconnaissance de l'islam.
Et on va stigmatiser les enfants, regardez, dans les jeux, dans les aires de jeux, dans les machins. Et on va dire, bah voilà, c'est des musulmans.
Il déplore, comme d'autres musulmans rencontrés, un effet de mode porté notamment par les réseaux sociaux.
Et cette question de l'interdiction du voile pour les mineurs, j'attends vos réactions et vos témoignages au 32-16. Et notez qu'à 7h40, mon invité, ce sera le député RN Julien Odoul.
Encore un peu de patience pour plus de 2 millions de familles qui vont toucher la prime de Noël versée par l'État à compter du 16 décembre. Directement sur le compte en banque des personnes concernées. Il a retrouvé sa cellule, le détenu du quartier de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, autorisé à quitter sa prison pour un entretien d'embauche dans la région lyonnaise, rentré finalement dans les clous en temps et en heure, Julie Brault, malgré un petit imprévu.
Oui, car c'est en train que ce détenu a réalisé un aller-retour entre la prison et la banlieue lyonnaise, train qui a eu une vingtaine de minutes de retard hier soir. C'est donc à 21h tout pile que l'homme de 52 ans est arrivé devant la prison de Vendin-le-Vieil, heure de retour maximale qui lui avait été accordée. Mais une fois devant les portes de l'établissement, personne ne lui ouvre. L'homme sonne d'abord à plusieurs reprises avant de faire des grands signes des mains devant le portail, toujours sans aucune réponse. Sa femme, restée initialement dans le taxi qui les avait récupérés un peu plus tôt à la gare, se précipite alors à ses côtés pour comprendre ce qu'il se passe avant de lui tomber dans les bras. Une scène qui a duré quelques minutes avant que des agents pénitentiaires ouvrent finalement le portail de la prison et laissent rentrer le détenu tout juste dans les temps.
L'avenir de Marseille sur la scène européenne se joue peut-être ce soir en Ligue des Champions face aux Anglais de Newcastle. Un OM à deux visages qui enchaîne les succès en Ligue 1 et les déconvenues en Europe. Il va falloir y remédier. Florent Germain.
Oui, victoire obligatoire pour l'OM contre Newcastle, même si certains supporters marseillais, comme Mehdi, n'y croient plus vraiment.
Pas trop, parce que Newcastle, ça reste quand même costaud. L'équipe panique en Ligue des Champions. Si on fait pas une victoire au Vélodrome contre Newcastle, de toute façon, voilà, Ligue des Champions, c'est fini. On va pas se concentrer sur le titre, hein. De toute façon, il nous restera que ça après à jouer, quoi.
Une seule victoire en 4 matchs de Ligue des Champions, mais l'entraîneur Roberto De Zerbi ne veut pas dramatiser.
Ce sera un match difficile, mais pas décisif. Parce que la Ligue des Champions de l'année dernière a démontré que jusqu'à la dernière journée, ce n'est pas fini. Mais c'est vrai que de prendre 3 points pour ce que nous avions fait sur le terrain, ce n'est pas suffisant. Nous en méritions plus. Newcastle est fort, mais nous aussi, et nous jouons à la maison.
Un vélodrome plein et la sensation que tout est encore possible en Ligue des Champions. Voilà qui doit transcender l'OM, selon le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia.
Le plus important, c'est de prendre conscience que c'est une chance d'avoir son destin entre les mains. On a cette excitation-là, on a de l'enthousiasme à savoir de jouer ce genre de match-là.
3300 supporters anglais sont également attendus. Match à enjeu et sécurité renforcée dans Marseille et aux abords du vélodrome.
OM, Newcastle, cinquième journée de Ligue des Champions à vivre ce soir sur RMC à partir de 21h.
C'était le journal de Thibaut Texer, 7h07, on part au 32-16. Et vous réagissez à cette proposition de Laurent Wauquiez, interdire le voile aux moins de 18 ans. Sébastien nous appelle pour témoigner. Bonjour Sébastien.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Sébastien, vous êtes routier dans la région de Lyon et je crois que vous-même, vous vous êtes converti à l'islam, c'est ça?
Ouais, c'est ça, il y a à peu près 15 ans.
D'accord. Donc,
tout se passe bien pour moi. On va dire que c'est un islam modéré.
Ouais.
Ni mes enfants ni ma femme ne portent le voile.
Ok.
Voilà. Ensuite, comme j'expliquais, ma femme souhaiterait maintenant le porter. Voilà. Mmh. Ma femme souhaiterait le porter, mais c'est moi. En fait, c'est moi pour l'instant qui est pas très d'accord, on va dire. Voilà.
D'accord.
Parce qu'on n'est pas dans un pays musulman, on est dans un pays chrétien, on est dans un pays d'accueil, et je pense qu'il faut respecter ça. On a l'intention de s'expatrier d'ici 3 ans à peu près, donc de quitter la France.
Ouais.
Et donc d'aller dans son pays d'origine.
C'est quoi son pays d'origine à votre femme?
C'est l'Algérie.
D'accord.
C'est l'Algérie. Et après, par contre, là-bas, je lui dis, tu feras ce que tu voudras. Par rapport à mes enfants, c'est pareil. Vous ferez ce que vous voudrez. On sera dans un pays musulman. Donc, vous pourrez faire comme vous voulez.
Est-ce que ça veut dire, Sébastien, que vous découragez plutôt votre femme de porter le voile, en tout cas en France? Vous dites, voilà, on est en France, on ne porte pas le voile. En Algérie, tu feras ce que tu voudras. Et vos enfants, ils ont quel âge, vos enfants, Sébastien?
14 ans, 12 ans et 10 ans.
Vous avez des filles?
Oui, 2 filles et 1 garçon.
D'accord. Et vos filles, elles aimeraient le porter ou pas du tout?
Non,
ou...
pas du tout.
Non, elles n'ont pas envie.
Pour l'instant, non, elles sont pas du tout dans le... On leur apprend à pratiquer la religion, mais voilà, après, ils font ce qu'ils veulent, on va dire. Voilà, on est assez modérés, donc on ne veut pas forcer.
Et leurs copines, est-ce que vous avez l'impression quand même que c'est quelque chose? C'est-à-dire que l'idée de Laurent Wauquiez et de la droite sénatoriale, c'est de dire, en fait, avant un certain âge, alors les sénateurs, ils disent 16 ans, Laurent Wauquiez, il va jusqu'à 18 ans, les enfants ne seraient pas totalement libres de vraiment faire leur choix parce qu'il y a la pression des parents, parce qu'il y a la pression du groupe. Est-ce que ça, vous l'entendez? Est-ce que vous le sentez? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites non, en fait, c'est un fantasme?
Mais oui, c'est n'importe quoi. Après, il y en a beaucoup qui disent que s'il y a la pression des parents, mais moi, je pense pas. Je côtoie beaucoup de musulmans, voilà, maintenant, aujourd'hui. Mais il n'y a pas de pression. C'est chacun fait comme il veut. Je vous dis, ma femme a bientôt 50 ans. Elle a envie de le porter maintenant, c'est tout.
Ouais. Bah,
c'est religieux, ouais. Il n'y a pas de. Mais non, je lui dis, sinon, pas en France. Moi, je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. On doit respecter. Moi, j'étais chrétien avant. J'étais pratiquant chrétien.
Ouais.
Je suis passé de l'autre côté.
Ouais.
Donc, je veux quand même qu'on respecte ce pays, c'est-à-dire ne pas porter le voile. Ici, c'est pas qu'on peut pas porter le voile, c'est que ça dérange. Voilà. Je vois beaucoup de regards qui se posent sur nous et ça dérange. Donc, je veux pas provoquer ça en fait. C'est tout. Ce qui se passe chez nous, ça regarde personne. On pratique notre religion.
Mais dans la rue. On respecte le pays, et puis vous changerez d'ici là. Vous nous rappellerez d'ici aussi votre déplacement, votre nouvelle vie, comme vous dites, aussi en Algérie. Merci beaucoup Sébastien de votre témoignage. Comme Sébastien, vous nous appelez au 32-16.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Chaque jour, plus de 2 personnes meurent dans un accident de travail. Et c'est un chiffre record, tristement record, dans le transport, dans la métallurgie, dans le BTP. Bonjour Johanna Ventoder. Vous êtes représentante de ce collectif Famille Stop à la mort au travail. Votre mari lui-même est mort au travail. Ce matin, vous alertez, les salariés ne sont pas assez protégés par leurs employeurs. Il faut sanctionner plus lourdement les entreprises qui ne prennent pas au sérieux ces questions de sécurité au travail. C'est votre parti pris dans un instant. A tout de suite, 7h11.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h15 sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous. Le travail tue. L'an dernier, 764 salariés sont décédés en France. C'était le chiffre donné par l'assurance maladie hier soir. Bonjour Johanna Ventoder. Vous représentez le collectif Famille Stop à la mort au travail. Votre mari est décédé en 2020 dans une laverie industrielle où il travaillait. Transport, métallurgie, BTP, mais aussi alimentation. Voilà les secteurs les plus touchés. Et ce chiffre, il est le plus haut depuis 10 ans. Comment ça s'explique à vos yeux ? Il n'y a pas de prise de conscience de la sécurité au travail. Il y a un tabou qui est vraiment entretenu par l'État sur la sécurité, sur la prévention. Et tant qu'il n'y aura pas de cette prise de conscience, on continuera. Et il n'y a pas de justice en plus. Donc, clairement, il y a un manque. Quand on regarde les causes de ces morts au travail, c'est majoritairement des malaises, ensuite des accidents de la route, et puis des accidents des chutes, de la manutention. Si on s'arrête un instant d'abord sur les malaises, vous pointez notamment ce qu'on appelle l'ubérisation des employés, c'est-à-dire une sorte d'épuisement à l'extrême.
Ah bah oui, c'est de l'emploi précaire, et qui dit emploi précaire dit conditions de travail anormales, donc un rythme de travail qui est toujours plus important, des conditions qui sont toujours plus dégradées, et clairement, on en arrive à ces chiffres qui sont insupportables et qui ne devraient pas exister.
Et donc, une prise de risque, vous pointez le fait qu'il n'y a pas suffisamment aussi de contrôleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs du travail. Il y en a un pour 10 000 salariés. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas d'inspection de travail sur ces questions-là.
Tout à fait, il n'y en a pas. Et je rappelle que cette année, il y a eu une ouverture de postes d'inspection du travail. On en a ouvert 45 postes.
Pour toute la France.
Pour toute la France, 45 postes uniquement qui ont été créés pour des inspecteurs du travail.
Qu'est-ce qu'on risque quand on est un employé qui met en danger ses salariés ?
En vérité, on risque pas grand-chose.
Un employeur qui met en danger ses salariés.
En vérité, vraiment, on risque pas grand-chose. On le voit, hein, il y a très peu de condamnations au pénal pour homicide involontaire. Et pourtant, on parle d'homicide. Alors, involontaire, certes, mais c'est un homicide. Et je crois que ça représente... Alors, il n'y a pas vraiment d'études, mais on est aux alentours de 1% d'employeurs qui sont condamnés. Donc, en fait... Il ne risque pas grand-chose. Et tant qu'on passera pas par cette case-là, eh ben, on n'aura pas d'effet.
Vous appelez même à la création d'un nouveau délit qui s'appellerait employicide.
Tout à fait. Sur le format du féminicide, nous, on voudrait une vraie reconnaissance du préjudice qu'on peut subir. Donc, un délit d'employicide.
Même si, et vous le précisez, il s'agit d'homicide involontaire.
Tout à fait, c'est un homicide involontaire, mais malgré tout, on est victime de l'insécurité au travail.
Vous-même, votre mari est décédé donc en 2020 dans une laverie industrielle où il travaillait. Vous en êtes où ? Est-ce qu'il y a eu un procès ? Est-ce que vous avez eu un dossier plus précis ? Où est-ce qu'on en est ?
Alors, j'en suis nulle part. En fait, l'enquête a été terminée donc depuis un an. Le procureur de Melun a en sa possession l'intégralité du dossier, et depuis un an j'attends qu'il prenne une décision s'il décide de poursuivre ou non pour la mort d'Alexandre.
Et donc au moment où on se parle, il n'y a toujours pas
je n'ai toujours pas jugement. Ça va faire 6 ans maintenant, je n'ai toujours pas de jugement ni de date, et c'est ce qu'on dénonce aussi dans l'association, c'est cette longueur de traitement de nos dossiers et l'absence de transparence. En tant que famille, on ne sait absolument rien de ce qui s'est passé.
Merci beaucoup, Johanna Bentoder, d'être venue témoigner ce matin. Vous êtes secrétaire générale de ce collectif Famille Stop à la mort au travail. Vous êtes combien dans ce collectif ?
On est dans l'association, on représente une cinquantaine de victimes, environ 150 familles.
150 familles endeuillées.
Tout à fait.
Par la mort au travail. Merci à vous. Il est 7h19 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
L'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier, vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Une commission d'enquête à l'Assemblée va étudier la neutralité ou non de l'audiovisuel public. C'est un vieux débat, Arthur.
Eh oui, information et pouvoir, ça a toujours été des relations compliquées et ça dure depuis presque un siècle.
L'histoire de la télévision et de la radio publique dans un instant. Arnaud Demange va venir aussi pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes tout pile sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h21 et c'est l'heure de remonter le temps sur RMC et RMC Story. Comme chaque matin, avec notre historien Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
C'est aujourd'hui que s'ouvre la commission d'enquête sur l'audiovisuel public à l'Assemblée nationale. Initiative du groupe UDR d'Éric Ciotti, l'allié du Rassemblement national. C'est inédit.
Oui, il n'y a jamais eu de commission d'enquête parlementaire sur ce sujet. D'après un député UDR, Charles Alloncle, le service public a fait, je cite, « des entorses à son obligation de neutralité politique ». Une cinquantaine d'auditions sont attendues d'ici le mois de mars.
Justement, l'audiovisuel public, ça date de quand ?
De 1939, à l'époque, la France s'apprête à entrer en guerre contre l'Allemagne. En guerre, l'information, évidemment, c'est très important. Donc, le gouvernement crée un monopole d'État sur la radio et la télé. Ça s'appelait la Radio Française Nationale. Tout était censuré, mais évidemment, c'était pour la bonne cause, gagner la guerre, même si cette guerre de 40, on va finalement la perdre.
Et à la fin de la guerre, le gouvernement garde quand même la main sur l'information.
Oui, pourquoi je gênais ? En 1949, on crée la RTF, la Radio-Télévision Française. Elle était directement sous la direction d'un ministère de l'Information, et ça allait très loin. Hein. En 1963, c'est le ministre de l'Information en personne qui vient présenter la nouvelle version du JT à la télévision. On se gênait pas. Hein. On avait vu plus libre, et à part elle, aucune station privée ne pouvait émettre en France.
C'était pas interdit d'émettre depuis l'étranger ?
Alors, exact, Apolline. L'interdiction ne valait que pour notre territoire.
Ah.
Donc, des petits malins ont eu la bonne idée, émettre depuis l'étranger pour être écouté en France. C'était notamment le cas de Radio Monte Carlo, qui était basée à Monaco. Cette station existe encore, c'est RMC, et vous êtes dessus.
Et quel bonheur ! Ensuite, c'est la naissance donc de l'ORTF.
L'ORTF, oui, une création du général de Gaulle qui date de 1964. Alors le but au début, c'était de rendre l'audiovisuel un peu plus libre. Tu parles. Toutes les semaines, l'ORTF, radio et télé, recevaient les consignes strictes du gouvernement sur les sujets à traiter. Tout était contrôlé.
Tout était contrôlé. Quand est-ce que l'information devient officiellement, en tout cas, libre ?
Alors, ça progresse un peu. En 1974, hein, on supprime l'ORTF, des chaînes de télé sont créées, TF1 ou Antenne 2. Même si les rédactions gagnent en indépendance, elles restent la propriété de l'État. Il faut attendre les années 80 et l'élection de François Mitterrand pour qu'on autorise les chaînes et les stations privées libre et indépendante.
L'audiovisuel public ne disparaît pas pour autant.
Oui, depuis, le privé et le public cohabitent, mais l'audiovisuel public, évidemment, a toujours fait débat parce qu'il a toujours été plus ou moins relié à l'État. C'est inévitable, puisque l'argent vient de lui. Bref, cette commission d'enquête, Apolline, s'inscrit dans une histoire déjà très compliquée.
Et ça va durer donc jusqu'en mars. Ça commence aujourd'hui. Merci Arthur Chevalier. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Et bonjour.
Bonjour. On a invité tout à l'heure à 8h30.
Ouais, pas mal, et vous ?
Ce sera le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun.
Petit ours brun, c'est un gentil.
C'est son frère.
Ah oui.
C'est pas Vincent Jeanbrun. C'est pas petit ours brun, c'est Vincent Jeanbrun. Ancien maire de L'Haÿ-les-Roses, devenu ministre du Logement. Son projet, c'est donc que toutes les villes de France ressemblent à L'Haÿ-les-Roses. Sympa. On le connaît mal, Vincent Jeanbrun, mais on le connaîtra pas mieux. Moi, je ne veux plus m'attacher. Tous ces ministres dont il a fallu se séparer au bout de 3 mois. Moi, j'ai trop souffert. J'en peux plus de nouer des liens affectifs avec eux. Mais on pense à nous, des fois, à l'Élysée. Merde.
C'est sûr.
Je vais m'en allumer une. Je fume pas souvent, mais je suis tellement énervé. Il a une qualité rare en politique. Il est beau gosse. Et alors, pas beau gosse comme Éric Zemmour ou François Hollande. Non, vraiment un cran au-dessus. Encore plus beau que Mathieu ou Arthur, ou encore plus beau qu'Aurel Gage, plus beau que moi. Vincent Jeanbrun, on dirait un agent de la CIA dans un téléfilm américain. Il a le sourire du héros du téléfilm de Noël. Vous savez, celui qui coupe du bois dans le Wisconsin, là. Il est ministre du Logement.
Il a la mâchoire de l'Amérique. C'est vraiment
Il a une tête à s'appeler Harold. Bref, il est ministre du Logement. Et il planche actuellement sur le plan logement. 300 000 personnes dorment dans la rue et Vincent Jeanbrun a même déclaré qu'il rêvait des JO du logement.
Oh oui.
Et avec Thomas Joly et Vincent Jeanbrun, on a travaillé 2 ans en secret pour vous offrir ce spectacle. Et c'est quoi ce personnage tout bleu là ? C'est Philippe Catherine ? Non, c'est un SDF en début d'hypothermie, ça caille dehors. On attend l'intervention de Vincent Jeanbrun. Il veut aussi tourner la page du logement social à vie, parce que quand on a un HLM et qu'on devient riche, eh ben on doit rendre son logement social, c'est normal. Regardez Michel Drucker. 45 ans logé dans un salon avec un canapé rouge et un chien avec nos impôts, il a les moyens d'aller dans le privé, quoi. Sarkozy, il a montré l'exemple, il a rendu son dernier logement social au bout de 21 jours.
C'est vrai.
Très bien. Emmanuel Macron, là, il y a son bail qui se termine dans un an et il est là. Je peux rester? On est bien là. En plus, avec Brigitte, c'est compliqué de déménager à son âge. Non, non, elle va très bien, elle est en pleine forme. Non, non, j'ai installé un lit médicalisé, regardez, elle va pas. Il est prêt à tout pour rester. Brigitte, je t'ai fait installer un monte-escalier Secma. Et une baignoire à ouverture latérale, comme Micheline Dax. Oh, Micheline Dax. La pub avec son déshabillé rose et ses bulles à pompons dans une salle de bain des années 70 où il y avait de la moquette. C'était mon YouPorn à moi. Moi, j'y serais allé. Hein. Que de mousse, Micheline. Allez, rendez-vous avec Vincent Jeanbrun.
C'est parti de Vincent Jeanbrun. On arrive à la mousse. Micheline Dax.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. On se retrouve évidemment à 8h15 et puis à tout moment... en podcast, dans un instant, la météo et le journal de 7h30 sur RMC. Puis dans 10 minutes, faut-il interdire le voile aux mineurs ? C'est Laurent Wauquiez qui veut l'interdire. Et mon invité à 7h40, ce sera l'un des pourfendeurs du voile dans l'espace politique et public. Julien Odoul, le porte-parole du Rassemblement National. N'hésitez pas à venir l'interpeller au 32-16. Notez aussi qu'à 7h50, Cécile Duflot, la voix de gauche, répondra à cette question. La COP 30, ratée ou pas ratée ? Allez, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dingen. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Quand parcours PMA rime avec parcours du combattant en entreprise, c'est un chiffre qu'RMC vous révèle ce matin. 71% des salariés concernés constatent une baisse de leur performance au travail. Les Français n'ont jamais autant boudé le livret A et pourtant ils continuent d'épargner, mais ailleurs, là où les taux sont meilleurs. Et puis elle devrait inspirer toute une génération de petites filles et de jeunes femmes. L'astronaute Sophie Adnaud a détaillé hier sa mission vers l'ISS.
Le désir d'enfant peut parfois nuire à la carrière, surtout pour celles et ceux qui sont en parcours PMA.
La procréation médicalement assistée et son lot de rendez-vous médicaux, de fatigue et d'attente, elle n'est pas sans conséquences pour les salariés concernés. Ils sont un peu plus de 7 sur 10 à constater une baisse de leur performance professionnelle. Conclusion de l'étude du collectif BAMP que l'on vous dévoile en exclusivité ce matin, à tel point que certains envisagent ou quittent leur emploi, Solène Leroux.
Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que ces protocoles PMA impliquent des absences répétées.
On a des rendez-vous médicaux qui tombent parfois à l'improviste. On a des prises de sang très régulièrement. J'avais du mal à concilier les deux. J'étais très fatiguée. J'étais à bout.
Maëval a vécu pendant 3 ans. Pourtant, la loi autorise des absences dédiées depuis 2016.
Je n'étais pas au courant. Alors après, est-ce que les autorisations d'absence auraient réglé tous les problèmes de ce parcours et sa complexité ? Je pense pas.
Mais dit-elle, ça aurait à minima allégé la culpabilité de ne pas être à 100% au travail. Désormais, Maëva veut croire à un meilleur accompagnement par les entreprises. C'est ce que fait déjà MGEN, explique Sophia Champenois, responsable au sein de la mutuelle.
Pour nous, le plus important, c'est de faire connaître le dispositif. C'est évident que ça participe à l'attractivité, mais aussi à la fidélisation des collaborateurs. Donc, c'est une démarche gagnant-gagnant.
L'étude montre que l'intérêt d'assister les employés en parcours PMA est bien compris par les entreprises. Pour autant, la moitié d'entre elles n'envisage pas un soutien spécifique à l'avenir.
L'État au chevet des viticulteurs avec ce plan d'urgence dévoilé hier par le ministère de l'Agriculture. 130 millions d'euros pour soutenir la filière durement touchée par le changement climatique, les droits de douane américains et la baisse de consommation en France. Une somme qui va surtout servir à l'arrachage des vignes. L'État a par ailleurs sollicité l'Union européenne pour débloquer des fonds supplémentaires. Des fonds, il y en a de moins en moins sur nos livrets A. C'était pourtant la star indétrônable de l'épargne en France. Mais la tendance semble s'inverser. Le mois dernier, les Français ont retiré 5 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur leur livret A et livret de développement durable. Des chiffres publiés hier par la Caisse des dépôts et c'est tout simplement du jamais vu, Romain Houg.
Oui, et la principale explication, c'est la baisse du taux de rémunération de ces deux livrets. On le rappelle, le livret A était à 3% en début d'année. Il n'est plus qu'à 1,7% depuis le 1er août, sachant que l'inflation se situe autour des 1% depuis le début de l'année. Eh bien, on peut dire que le livret A rapporte toujours un peu, mais plus grand-chose. Les Français n'ont toutefois pas pour autant cessé de mettre de côté, bien au contraire. Leur taux d'épargne a grimpé de près de 20% de leurs revenus disponibles cette année. C'est un record depuis les années 70, hors période Covid. En fait, ils reportent leurs placements sur des valeurs refuges comme l'or ou sur d'autres produits comme l'assurance vie qui a enregistré, elle, une collecte record de 15 milliards d'euros au mois de septembre.
La prime de Noël sera versée le 16 décembre prochain aux 2 200 000 foyers concernés, bénéficiaires du RSA et chômeurs en fin de droit. On ne connaît pas encore le montant pour cette année, mais il sera d'au moins 152 euros. Il est 7h34, 5 ans après la mort de leur fils. Ils attendent toujours des réponses. Les parents du jeune Baptiste, emporté par une crise cardiaque en plein cours d'EPS, espèrent en obtenir au procès qui s'ouvre aujourd'hui à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. À la barre, le professeur de sport de l'enfant qui connaissait son état de santé selon la famille. Famille qui témoigne ce matin au micro de Vincent Chevalier.
Baptiste, 12 ans, est mort en décembre 2020.
5 ans, c'est une éternité. Une éternité.
Xavier Ledoux, le père du collégien.
Jusqu'à notre dernier souffle, on pensera à notre fils. Hein, il nous manque tous les jours, tous les jours.
Les parents veulent savoir pourquoi le jeune garçon, atteint d'une maladie cardiaque et dispensé de sport, a participé à une séance de course à pied et quel est le rôle du professeur de sport, Mélanie Jacques, la maman de Baptiste.
Il aurait pu vivre encore des années en étant suivi, bien évidemment. Mais il savait qu'il n'avait pas le droit de courir. Il a dû avoir peur de ce monsieur qui l'a obligé à courir parce qu'il savait qu'il pouvait faire une crise cardiaque en faisant un effort aussi important.
Tous les deux attendent aujourd'hui qu'il reconnaisse sa responsabilité.
On aimerait qu'il reconnaisse ses torts, qu'il dise ouvertement qu'il a mal agi, qu'il n'a pas suivi les procédures, qu'il était au courant.
Ça ne nous ramènera pas notre fils, mais voilà, on a envie d'avoir des réponses.
Contacté, l'avocate du professeur de sport n'a pas donné suite à nos sollicitations.
Il est 7h35 sur RMC et elle sera bientôt la deuxième astronaute française de l'histoire à partir en orbite autour de la Terre. Dans moins de 3 mois, Sophie Adnaud s'envolera à bord d'une fusée SpaceX, direction la Station Spatiale Internationale où elle restera 8 mois. La pilote d'hélicoptère a présenté hier certaines de ses futures expériences dans les locaux toulousains du Centre National d'Études Spatiales. Jean-Wilfried Forquès y était pour RMC.
Son départ pour l'espace, Sophie Adnaud l'attend depuis qu'elle est au collège.
J'en rêvais, oui, j'en rêvais.
Et le rêve va devenir réalité à bord de la Station Spatiale Internationale. Celle qui est devenue astronaute va réaliser de nombreuses expériences scientifiques grâce à l'intelligence artificielle.
Sur l'utilisation des procédures médicales, de développer ces technologies, de développer des traitements médicaux, etc.
Elle travaillera également depuis l'espace avec des dizaines de milliers d'écoliers français sur un thème bien précis.
La compréhension de comment les graines peuvent germer avec l'effet de la gravité d'un côté ou de la micro-pesanteur, avec des filtres de lumière aussi pour étudier l'influence de la lumière.
Âgée de 43 ans et mère d'un enfant, elle aborde ce vol avec confiance, mais s'interroge sur les habitudes du quotidien qui pourraient lui manquer.
Est-ce que ce sera le fait de ne pas pouvoir ouvrir la fenêtre et respirer de l'air frais? Est-ce que ce sera le fait de ne pas pouvoir aller au marché choisir des fruits et légumes frais et de ne pas manger de fruits et légumes frais pendant 8 mois?
La mission Epsilon décollera pour la Station Spatiale Internationale le 15 février prochain.
5e journée de Ligue des Champions ce soir. Marseille reçoit Newcastle à 21h. Match à vivre évidemment sur RMC, suivi de l'afterfoot et des nuits du Casar enchaînées jusqu'à 1h30 du matin.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Deauville.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 9, Yulia. L'outsider, c'est le 7, Ventosilla.
C'était le journal d'Élise Dangean, 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
15 ans, 16 ans ou 18 ans, faut-il interdire le port du voile aux jeunes femmes mineures et à quel âge? Bonjour Julien Odoul.
Bonjour.
Vous êtes député, porte-parole du Rassemblement National, vous faites partie des pourfendeurs du voile, vous étiez l'un de ceux qui s'étaient opposés au port du voile de ces petite fille de ces écolières à l'Assemblée nationale il y a 2 semaines. Un rapport des sénateurs LR vient d'être rendu public. Il veut combattre l'islamisme en interdisant notamment le voile aux mineurs. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Et je vous interroge dans un instant. Et puis je vous attends au 32-16. Venez donc témoigner et réagir. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41, merci d'avoir choisi RMC. Faut-il interdire le voile pour les mineurs? Bonjour Julien Odoul, vous êtes député, porte-parole du Rassemblement National. Gabriel Attal dit qu'il faut interdire le voile aux moins de 15 ans. Laurent Wauquiez veut interdire le voile aux moins de 18 ans. Les sénateurs LR sont un peu entre les deux en disant qu'il faut interdire le voile aux moins de 16 ans. Et vous?
Ce qui est certain, c'est que nous, au Rassemblement National, nous considérons que le voile islamique n'est pas souhaitable dans la société française et qu'il est temps, il est même urgent aujourd'hui, de combattre l'entrisme islamiste partout, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit à tous les niveaux où cette idéologie qui nous fait la guerre depuis des années essaye de nous coloniser et essaye de remettre en cause nos principes, nos valeurs et nos lois. J'observe que depuis des années, tous ceux qui ont annoncé quelque chose, tous ceux qui ont fait les constats que nous faisons depuis très longtemps avec Marine Le Pen, qui, rappelez-vous, avait déposé en 2021 une proposition de loi visant à lutter contre les idéologies islamistes, dont l'interdiction du voile, qui est l'une des manifestations de l'islamisme.
J'ai pas compris. Vous voulez l'interdire partout, tout le temps, pour tout le monde ?
Non,
il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'espace.
La lutte contre l'islamisme, la guerre que nous devons mener contre l'islamisme, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet global, c'est un sujet qui ne concerne pas seulement que le voile, qui est l'une des manifestations, mais qui concerne évidemment l'immigration de peuplement, puisque l'islamisme n'est pas né comme par enchantement, il n'est pas tombé du ciel. Ça concerne évidemment les financements, ça concerne évidemment l'éducation nationale, comment on lutte à l'éducation nationale contre cet entrisme qui vise d'une part à faire taire nos professeurs et d'autre part à remettre en cause la loi de 2004. Ça passe évidemment par l'interdiction du voile pour les accompagnatrices scolaires, ce que nous demandons avec Marine Le Pen et Jordan Bardella depuis très longtemps. Ça passe, comme je l'ai demandé, puisque j'ai dirigé une mission flash sur l'islamisme dans le sport. Nous demandons, comme l'ont fait les sénateurs qui l'ont voté en février dernier, l'interdiction des signes religieux et politiques dans toutes les compétitions sportives, que nous attendons toujours que ce soit mis sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Sur la question du voile et de l'âge auquel il devrait être interdit ou pas interdit, quel est le fondement pour vous ? C'est la question de la liberté ? C'est la question de la... Vous estimez que l'enfant, ou alors pour vous, c'est même plus la question ?
Non, mais aujourd'hui, la question, c'est que le voile islamique est le totem de nos ennemis. C'est un objet à la fois de colonisation de l'espace public, c'est un objet de ségrégation, de discrimination et de relégation de la femme, il faut bien le dire, c'est-à-dire de communication dans l'espace public de l'infériorité de la femme, et c'est encore pire pour les enfants, parce que ça signifie quoi pour des petites filles, et notamment pour ces petites filles qui étaient entrées à l'Assemblée nationale. Ça signifie, au-delà de la relégation, c'est la sexualisation des enfants, c'est-à-dire que les islamistes considèrent que des petites filles de 8-10 ans sont des objets sexuels, et qu'il faut les soustraire au regard
vous
de l'homme prédateur. Ce qui est totalement intolérable.
Vous savez quoi, Julien Odoul ? Le mieux, c'est aussi, la force des témoignages sur RMC, c'est que vous puissiez entendre le témoignage de Zora. Zora, au 3216, qui est à Montpellier. Bonjour Zora. Zora, vous aviez déjà plusieurs fois témoigné dans Apolline Matin. Vous êtes technicienne dans un laboratoire. Je crois que vous portez le voile. Est-ce que vous pouvez réagir à ce que vient de dire Julien Odoul, qui vous écoute et qui va pouvoir vous répondre ?
Oui, bonjour. Moi, j'essaie de faire comprendre que là, on n'est plus du tout dans l'obligation, parce que ce que j'entends là par votre invité, c'est que le problème, c'est l'islamisme. C'est l'islamisme des femmes. Ouais. On n'est plus du tout dans le pourquoi, du comment, est-ce qu'on oblige, on n'oblige pas. Moi, je pensais vraiment qu'on allait débattre sur là-dessus, sur le fait qu'elles sont mineures, on les protège, mais finalement, on n'est pas du tout dans ce sujet. Mais bon, c'est pas grave, je m'en vais.
C'est-à-dire, est-ce que pour vous, alors il y a deux choses en effet, c'est que la question que je posais à Julien Odoul, c'est la question de la liberté ou non des jeunes filles, mais il y a aussi, plus largement, globalement, pour Julien Odoul, l'interdiction du voile comme un totem, dit-il. Mais d'abord, sur les jeunes filles, vous avez des enfants, vous-même vous le portez, est-ce que votre fille le porte ?
Tout à fait. Alors voilà, moi je le porte depuis l'âge de 30 ans. J'ai une fille, du coup on est en plein dans ce sujet, qui a 16 ans maintenant. Ouais. Comme je disais la dernière fois quand j'ai intervenu, on est allé à la Mecque, on a fait notre pèlerinage, donc c'est le summum de la religion musulmane, on est d'accord. En février, elle est revenue pas pour autant voilée. Et la petite anecdote, c'est entre la dernière intervention qu'on s'est eue au téléphone et aujourd'hui, j'ai ma nièce par exemple, la fille de ma sœur. Ma sœur est complètement, on va dire, je mets des guillemets quand je dis ça, est complètement intégrée à la vie européenne, parce que c'est ce que la France veut nous faire entendre quand on est intégré, c'est-à-dire qu'on n'a pas de voile, on n'a pas si on fume, enfin voilà, tout, pour moi qui n'a aucun sens, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas musulmane si on n'a pas de voile, mais bon, ça reste les points forts de l'idée des musulmans. Donc du coup, elle
votre
n'est pas
nièce,
voilée.
Vous disiez
voilà, ma sœur n'est pas voilée, mais ma nièce, depuis cet été, s'est voilée.
Elle a quel âge, votre nièce ?
Et elle a 14 ans, vous voyez ? Pourtant, sa maman n'est pas voilée, sa maman ne pratique pas la religion. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que c'est une liberté, même si la France ne veut pas l'entendre, M. Odoul ne veut pas l'entendre, mais c'est une liberté individuelle.
Je voudrais que M. Odoul puisse vous répondre, Julien Odoul.
Oui, bonjour Zora. Je pense qu'il y a deux choses et il ne faut pas confondre la liberté de culte qui est tout à fait respectée en France et nos compatriotes de confession musulmane sont au même titre que tous les Français, peuvent librement exercer leur culte, pratiquer leur religion. Aujourd'hui, le vrai souci qu'on a, et il faudrait être aveugle pour ne pas le voir, c'est que nous avons un entrisme islamiste, une idéologie qui nous fait la guerre, qui cherche tout simplement à remettre en cause ce qu'est la France, ce qu'est la République française, ce qu'est l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qu'est la démocratie, ce qu'est le rapport entre la religion et la société et l'État, et que cette idéologie se sert de l'emblème qu'est le voile islamique, que vous le vouliez ou non, et j'en suis le premier désolé, mais se sert de cet emblème pour affirmer son idéologie à la fois dans l'espace public et pour aussi remettre en cause la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux dans les établissements scolaires. Et il faut le comprendre, Zora, c'est un danger pour notre République et particulièrement, et d'abord, pour nos compatriotes de confession musulmane qui cherchent à exercer leur foi dans la sphère privée, sans radicalité, sans prosélytisme.
Zora.
Moi, c'est vraiment contradictoire ce que vous dites, parce que vous dites que vous prenez la liberté, tout ça, mais finalement, une jeune fille, vous allez me faire croire qu'une jeune fille de CM2 qui arrive avec un voile dans une structure, c'est une provocation, c'est un danger. Je pense que la France a d'autres dangers, d'autres problèmes actuellement.
Mais ça vous choque par pas exemple...
excusez-moi, mais alors moi,
une petite fille de 10 ans, une petite fille de 10 ans qui, d'une, n'a pas la liberté, n'a pas la conscience de savoir quels sont ses choix, qui, évidemment, répond aux obligations de ses parents. Ça ne vous choque pas qu'une petite fille soit voilée à 10 ans ?
Dès que vous voyez une petite fille, ou une petite fille, parce que 10 ans, 12 ans, 16 ans, pour vous, tout ça, ça reste petit, qui a un voile, pour vous, c'est qu'elle est privée de sa liberté ? Alors pour moi, la liberté n'a pas d'âge, déjà. La liberté n'a pas d'âge. Il ne doit pas y avoir de liberté sélective pour moi.
Est-ce que ça veut dire, Zora, que pour vous, par exemple, j'avais un auditeur la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qui était à Marseille, dont les petites filles, il s'appelait Ali, il était, disait-il, membre de la communauté comorienne, et ses filles allaient à l'école coranique, et il disait, elles portent le voile dans l'école depuis la maternelle. Ça veut dire, quand vous dites la liberté n'a pas d'âge, c'est-à-dire que pour vous, une petite fille en maternelle voilée, ça va aussi, c'est OK?
Alors, moi, ma fille, vous voyez, fait l'école coranique le samedi. Je prends toujours l'exemple de ma fille, et depuis l'âge de 4 ans. Mmh. Alors, pour vous dire, à Montpellier, par exemple, il y a plusieurs associations, écoles coraniques, on les appelle comme on veut, mais on est clair, je vais pas me voiler la face, un mauvais mot, mais bon,
c'est
voilà.
C'est le cas de dire, mais...
Exactement, pour dire que elles y vont pour apprendre à écrire et lire l'arabe. Non, elles y vont pour apprendre le Coran et pour apprendre aussi l'écriture et la langue arabe. Pour vous dire, ma fille est dans un lycée de langue internationale et grâce à ça, ça lui ouvre des portes. Donc c'est très bien, peu importe. On est musulman. Voilà, il ne faut pas non plus dire que c'est le hasard. Et bien dans cette école, figurez-vous que justement jusqu'à l'âge de 9-10 ans, ça ne les dérangeait pas qu'elles viennent avec un foulard, une petite tenue. C'est mignon, on va dire. Pour moi, ça reste enfantin.
Ça veut dire quoi, c'est-à-dire qu'à 9-10 ans, ça passe à quoi?
Voilà, passé un certain âge, justement, elles les ont pris, parce que c'est des maîtresses, et elles leur ont dit que si elles ne portaient pas d'office le voile, elles préféraient qu'à l'école, elles viennent sans voile. Et que si elles le portaient tous les jours, qu'elles viennent avec leur voile sans problème.
Que ce soit cohérent. Non. Merci Zora pour votre témoignage. Un dernier mot, Julien Odoul, quand vous entendez effectivement le témoignage de Zora, qui dit que sa fille ne le porte pas, mais que sa nièce, dont la mère ne porte pas le voile, porte en revanche le voile, est-ce que vous persistez à penser qu'il ne s'agit pas d'une forme de liberté?
Non, mais vous voyez bien l'instrumentalisation qui en est faite et la faiblesse de nos débats. Les islamistes se jouent de ces faiblesses, contournent, avancent comme ça, soit se victimisent, soit cherchent à faire passer le voile islamique, qui, je le redis, est un objet de relégation de la femme dans l'espace public, comme un objet de liberté. Moi, je le dis, la France ne doit pas devenir l'Afghanistan ou l'Iran. Et quand on voit qu'en Iran, les femmes luttent pour leur vie, pour s'affranchir de cette prison de tissu, et que le premier réflexe, la première décision politique quand les islamistes arrivent au pouvoir, c'est automatiquement de voiler les femmes. Et moi, je ne le veux pas pour mon pays, et je le dis, l'égalité entre les hommes et les femmes, la défense de nos libertés, la défense de la République française, passe par la lutte acharnée contre l'islamisme et contre ses symboles.
Julien Odoul, député et porte-parole du Rassemblement National. Et merci à Zora, notre auditrice RMC qui nous appelait de Montpellier. Il est 7h51 et Cécile Duflot, la voix de gauche, vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Cécile. La Bonjour, COP, Pauline. La fameuse COP, c'est raté ou c'est pas raté alors?
C'est décevant, mais on s'attendait pas à grand-chose avec l'absence d'un certain nombre de pays. Mais il y a quand même quelques trucs à sauver. Et ça, je pense que c'est important d'en parler.
Et vous nous le dites dans un instant. 7h51 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, Cécile Duflot, mais d'abord le bonus, Mathieu, et on part chez Mickey ce soir.
Le parc Disneyland, juste à côté de la capitale, bien sûr, un parc qui va doubler de volume dans les années à venir avec de nombreux projets, et notamment un nouvel espace très attendu, un nouveau monde, le royaume d'Arendelle reconstitué. Le royaume d'Arendelle, vous l'avez pas? Bon, j'ai attendu un petit peu avant d'envoyer la musique. Bon, c'est un univers complètement inspiré de la Reine des Neiges qui va ouvrir ses portes le 29 mars prochain. Nouvelles attractions, nouveau manège, nouvelle boutique hein, aussi, soulignons-le. Les personnages des films qui défileront dans les allées. Un immense spectacle de drones au-dessus de l'eau. 2 milliards d'euros d'investissement, 4 ans de travaux. Et ce n'est pas tout. La suite, ce sera un projet de savane africaine et de reconstitution de l'univers du Roi Lion avec un rocher au lion là, de 37 mètres de haut. Mais là, les travaux, pour le coup, viennent tout juste de démarrer. L'automne dernier, on aura l'occasion d'en reparler.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche,
voix de droite.
Il est 7h54 et c'est le jour de la voix de gauche sur RMC. Bonjour Cécile Duflot.
Bonjour Apolline.
Cécile, la COP30, grande réunion sur le climat, s'est terminée ce week-end au Brésil. 15 jours de négociations. Tout le monde dit que c'est raté. Et vous?
Je dis qu'effectivement, ça devait être la COP des engagements. Et on est quand même très très loin des engagements, que ce soit en termes de solidarité financière et en termes de réduction d'émissions d'un certain nombre de pays. Puis il y a des grands pays qui étaient quasiment absents. Puis ça a aussi été le bal des hypocrites.
C'est un secteur essentiel, justement, la question de la sortie des énergies fossiles. Ça devait être aussi ça. On en est où?
Je l'ai dit, on en est au moment où on est au bal des hypocrites. Pourquoi? Parce que vous aviez à la COP 30, 1700 lobbyistes des énergies fossiles.
Ah oui.
C'est un peu comme si à un congrès sur le cancer, vous aviez tous les fabricants de cigarettes. Donc on était dans cette situation-là, qui était une situation très désagréable. D'ailleurs, ils ont en partie gagné. Il n'y a pas d'approfondissement de la sortie des énergies fossiles dans le texte qui a été adopté. Mais vous l'avez dit, c'est un secteur essentiel. Et c'est vrai. Et c'est là où il y a un élément positif. C'est que pendant la COP de Belém, a été décidé et a été adopté le Belém Action Mechanism.
Yes.
C'est-à-dire un mécanisme qui dit qu'il faut que les salariés qui travaillent dans ce secteur et que ces secteurs, ceux des énergies fossiles, soient accompagnés, qu'il y ait une vraie transition juste. Donc c'est la première fois qu'on lie les enjeux sociaux et environnementaux et les enjeux des salariés de ces secteurs à une COP.
Donc, tout n'est pas acheté, mais est-ce que vous avez ressenti, Cécile, une forme de lassitude globale sur les questions de climat? Est-ce que vous le ressentez?
Il y avait une inquiétude, notamment de la part de tous les activistes militants qui s'y sont rendus. On voyait bien qu'on parlait pas autant de la COP que ce dont on avait pu parler avant, alors que c'était l'anniversaire de l'accord de Paris. Donc on aurait dû avoir un grand moment. Mais là aussi, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que il y a eu une adoption d'un premier travail sur de lutte contre la désinformation sur le climat, parce que c'est moins la lassitude qu'une espèce de climat bashing avec vraiment des ingénieurs du doute qui instillent de l'information, avec y compris certains dirigeants, pour dire non, le climat c'est plus un problème alors qu'on vit les conséquences. Moi j'ai vécu la COP de Copenhague en 2009, à l'époque je parlais des générations futures, des enfants et des enfants de mes enfants. C'est nos générations qui sont concernées dès maintenant.
Dès maintenant, avec aussi la question de la suite politique quand même, l'adaptation au changement climatique. Est-ce que ça devrait pour vous être encore en haut de la pile?
Ça devrait être encore en haut de la pile pour une raison simple. Je dis, c'est maintenant que ça arrive. Hier, dans le sud-ouest, on a vécu des records de pluie énormes. Cet été, c'était des records de chaleur. Les records historiques qui battaient tous les records existants. Donc, mettre à l'agenda la lutte contre le changement climatique, c'est aussi travailler sur l'adaptation. Dans quelques mois, il y a les élections municipales. Je pense que tous les élus et tous les candidats devraient s'engager sur cette question. La COP, c'est au niveau international, mais c'est des enjeux qui se passent tout près de chez nous.
La voix de gauche, écolo, Cécile Duflo. Demain, ce sera la voix de droite, Louis Sarkozy. Dans un instant, la météo et le journal. Il est 7h57. À la une du journal de 8h, Emmanuel Macron qui prend la parole ce matin. Nous ne devons pas être faibles avec la puissance qui nous menace le plus, dit le président de la République dans une interview. Les précisions dès le début de ce journal. Et puis, la météo, encore pas mal d'averses aujourd'hui. Il y aura aussi l'économie avec vous, Emmanuel Le Chip. Les Français boudent les livrets d'épargne.
Oui, mais pas l'épargne en général. Je vous donne quelques idées.
7h57, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Merci d'avoir choisi RMC la radio et RMC Story la télé. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nous devons montrer que nous ne sommes pas faibles avec la Russie. Voilà ce qu'affirme ce matin Emmanuel Macron, qui confirme une évolution à venir du service national. On va tout vous détailler. Les cœurs artificiels Karmat vont-ils continuer de battre? Le fabricant français est en redressement judiciaire. Son sort sera examiné aujourd'hui. Et un très gros colis chinois ce matin. Les deux célèbres pandas du zoo de Beauval quittent la France. Ils repartent en Chine. Vous verrez que c'est un événement diplomatique et même sécuritaire.
Nous aurions tort d'être faibles face à la Russie. Voilà les mots d'Emmanuel Macron ce matin.
Dans une interview à la presse que vous avez écoutée ce matin, Sébastien Krebs, chef du service politique à RMC, le président dit qu'on doit se protéger face à cette menace.
Oui, nous devons montrer que nous ne sommes pas faibles avec la Russie, alerte le président de la République. On est monté d'un cran dans la conflictualité, dit-il Emmanuel Macron, qui pointe une posture agressive de la Russie, qui a accru sa défense, qui met plus d'un tiers de son budget dans son armée, qui produit des sous-marins, des tanks, des missiles, sans compter la guerre de l'information et les manœuvres de déstabilisation qui visent l'Europe. Nous aurions tort d'être faibles face à cette menace, répète Emmanuel Macron. Nous sommes à portée, dit-il, de ses équipements et de ses missiles balistiques.
Et alors, la réponse à cette menace, c'est le retour d'un service militaire. Ça se précise sous une nouvelle formule.
Oui, il confirme qu'il annoncera d'ici quelques jours un service national remanié. Il est très clair que nous devons renforcer le pacte armée-nation, plaide le chef de l'État. Et face à cette menace hybride de la Russie, il estime important qu'un maximum de Français puissent comprendre ce que sont les armées, comment ça marche, qu'ils puissent participer aussi à la réserve, être réservistes dans l'armée. Mais il veut mettre fin tout de suite à une idée, et il le dit de façon assez insistante. Il faut réfuter l'idée qu'on va envoyer nos jeunes en Ukraine, insiste Emmanuel Macron. Ça n'est pas du tout le sens de cette affaire, dit Emmanuel Macron, qui sera dans l'Isère, dans une caserne, jeudi, très probablement, pour préciser ses annonces.
Et je précise que l'heure n'est pas du tout à la paix ce matin entre l'Ukraine et la Russie, qui s'accusent mutuellement d'attaques durant la nuit, faisant au moins 3 morts côté russe, 6 côté ukrainien. La capitale Kiev, notamment, qui a été visée. Emmanuel Macron, à l'instant, qui vient aussi de dire qu'il a bon espoir que les forces parlementaires trouvent un compromis sur le budget. Vous savez qu'on est en pleine tractation en ce moment. Il sera d'ailleurs à nouveau question aujourd'hui de la réforme des retraites. Les députés avaient voté sa suspension durant l'examen du budget de la Sécu. Eh bien, le texte arrive chez les sénateurs de droite, qui devraient sans aucun doute supprimer cette suspension dans la journée. Il sera question, tiens, également aujourd'hui, de l'audiovisuel public, critiqué par les uns, défendu par les autres. Une commission d'enquête parlementaire à l'initiative du groupe UDR, qui est un allié du RN, va se pencher pendant les 4 prochains mois sur, je cite, la neutralité, le fonctionnement et le financement de France Télévisions et de Radio France. Notamment Thomas Becker du service politique à RMC. Une 50aine d'auditions sont prévues et les principales têtes d'affiche de l'audiovisuel public vont y passer.
La patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, celle de Radio France, Sybille Veil, des présentateurs et producteurs, Léa Salamé, Élise Lucet, Nagui, le rapporteur Charles Alloncle du groupe UDR, allié du RN, affûte ces questions depuis plusieurs semaines.
L'audiovisuel public, c'est 4 milliards d'euros par an. C'est une somme considérable, donc c'est la moindre des choses de faire toute la transparence sur la bonne gestion de ces fonds publics et le respect aussi des obligations liées au service public de l'audiovisuel, notamment le premier étant la neutralité.
Sauf que beaucoup de députés, comme l'écologiste Sophie Taillé, et Pollion reproche déjà à la commission d'être partisane.
Le vrai sujet pour le rapporteur, qui est de faire le procès du service public audiovisuel parce qu'il serait un repère de gauchiste.
Pour elle, ce n'est pas le rôle des députés de juger la neutralité.
C'est à l'ARCOM de le faire et nous, au contraire, on est complètement en dehors de nos missions.
Le président de la commission, Jérémy Patrier-Lettus, garant de la tenue des débats, de l'agenda et des convocations, prévient qu'il ne tolérera aucune forme de cirque médiatique.
Moi, je vais rester optimiste, en tout cas, je vais être vigilant. Les députés ne sont pas des juges, on n'est pas des juges.
Il s'attend à ce que la commission soit très suivie sur les réseaux sociaux. Elle durera jusqu'en mars prochain.
Il est 8h04 sur RMC et c'est l'opération de la dernière chance pour Carmat.
Oui, le fabricant français de cœurs artificiels qui est en redressement judiciaire. Le tribunal des affaires économiques de Versailles va se prononcer aujourd'hui sur l'offre de reprise qui a été formulée par l'actuel président du conseil d'administration. La première offre a été rejetée, c'est donc la deuxième, Inès Zegloul.
Nouvelle audience, ce sera la bonne.
Et nouvel espoir, peut-être, pour nos services de cardiologie, sourit la docteure Anne-Céline Martin. Dans les blocs opératoires de l'hôpital parisien Georges Pompidou, où elle travaille, ce sont au total 9 prothèses artificielles Carmat qui ont été implantées, 9 cœurs complets et autant de patients sauvés.
Ces patients-là, ils ont l'ensemble du cœur qui est malade. Ils ont besoin d'une solution immédiate. On est parfois au jour près, à la minute près, à la semaine près. Aujourd'hui, la seule option qui a les si bons résultats, qui permet de retourner à la maison, c'est ce cœur artificiel total Carmat.
Sans cette prothèse, restent des alternatives, dit la spécialiste, mais moins performantes, avec des risques d'AVC, de caillots, des malades condamnés à vivre en chambre hospitalière jusqu'à leur greffe.
C'est du sauvetage, c'est plus de la médecine de pointe.
De son côté, l'entreprise Carmat promet, en cas de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, le suivi des patients sera assuré. Pour l'heure, la cardiologue ne veut pas y songer, invoquant, dit-elle, son optimisme légendaire.
C'est un peu l'opération de la dernière chance aussi en football pour Marseille qui va jouer ce soir son 5e match de Ligue des Champions 21h sur RMC au Vélodrome contre Newcastle. Il y aura rien de définitif en cas de défaite, mais quand même, Clément Brossard, c'est tout le paradoxe cette saison pour Marseille qui marche fort en championnat mais qui n'y arrive pas en Ligue des Champions.
Oui, car la dernière victoire de Marseille 5-1 à Nice le week-end dernier n'a pas rassuré l'entraîneur Roberto De Zerbi.
Je dis toujours ce que je pense et je crois que cette équipe doit mieux jouer. Je suis persuadé que si nous jouons comme à Nice, nous remporterons très peu de victoires de cette ampleur.
Mais un succès reste un succès. Et le milieu de terrain, Angel Gomez, espère surfer sur la belle série en cours.
Les deux derniers matchs ont été positifs pour l'équipe et pour la confiance. Ça a été une période difficile, avec les blessures et les circonstances particulières. Mais nous essayons toujours de rester positifs. Et c'est ce que nous allons faire pour tous les matchs à venir.
Avec pour objectif de redresser la barre. Car si les dauphins du PSG, l'OM n'a remporté qu'un seul de ses 4 matchs de Ligue des Champions. Ancien attaquant marseillais et consultant RMC, Christophe Dugarry en attend plus.
Quand tu as un budget de 260 millions qui te permet d'exister dans cette Ligue des Champions, je sais très bien qu'ils ne vont pas la gagner, tu dois avoir une forme d'exigence. Est-ce que l'OM n'est pas capable de battre Newcastle? Moi, je dis si.
Au risque, en cas de nouvel échec, de compromettre ses chances de qualification pour la phase éliminatoire de Ligue des Champions.
Bon, et comme promis ce matin, des nouvelles des deux pandas, célèbres pandas du zoo de Beauval. Pourquoi? Parce que leur histoire avec la France se termine ce matin. Ils repartent en Chine, 13 ans après leur arrivée dans le zoo du Loir-et-Cher. Ils ont pris la route vers 6h ce matin à bord d'un camion à leur effigie, sous escorte policière quand même. Direction Roissy, ils y décolleront à la mi-journée, c'est l'heure du départ. Donc, et Rodolphe Delors du zoo de Beauval est forcément ému ce matin.
Beaucoup d'émotions ce matin. Moi, je les ai vus arriver. Je suis même allé chercher en Chine, à Chengdu. Je crois qu'ils font partie de notre famille, la grande famille du zoo parc de Beauval. C'est une émotion partagée par toutes les équipes, mais plus particulièrement pour les soigneurs animaliers qui s'occupent des pandas, certains depuis 13 ans et qui étaient là ce matin. C'était beaucoup d'émotions. C'est des animaux attendrissants, c'est des animaux qui fascinent. Ils ont leurs fans qui étaient là à 5h du matin pour voir le camion partir et puis pour s'envoyer pour la Chine.
Et c'est un événement diplomatique, hein, puisque le ministre de la Transition écologique et l'ambassadeur de Chine vont assister à leur départ. Je précise que leurs jumelles nées en 2021 vont rester au zoo de Beauval au moins pendant 2 ans.
Donc les deux petites, on garde les deux petites.
Voilà, et on espère même accueillir de nouveaux pandas venus de Chine.
C'était le journal de Quentin Vinet à 8h08. C'est l'heure de parler économie et épargne.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour
Emmanuel,
à tous.
Les Français n'ont jamais autant boudé le livret A.
Effectivement, les épargnants ont retiré 5 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur leur livret A et livret de développement durable au mois d'octobre. Alors, c'est vrai que traditionnellement, les Français piochent dans leur livret au mois d'octobre, souvent pour régler les arriérés d'impôts, payer la taxe foncière, plus que malheureusement pour préparer Noël. Mais jamais on avait vu ce qu'on appelle de la décollecte à ce niveau-là. L'explication, c'est bien entendu la baisse du taux de rémunération de ces livrets réglementés. On était encore à 3% début 2025, et puis ça a été ramené à 2,4% en février, 1,7% au mois d'août, sachant que l'inflation se situe autour de 1%. Donc ça rapporte encore un peu, mais plus grand-chose.
Qu'est-ce qu'ils font de leur épargne? Français?
Alors, les fourmis ne se sont pas transformées en cigales. Leur taux d'épargne n'a jamais été aussi élevé depuis les années 70. Et selon l'INSEE, jamais la préférence pour l'épargne au détriment de la consommation n'a été aussi élevée que cet automne. C'est tous les mois, l'INSEE pose la question aux Français. Est-ce qu'en gros, vous pensez que c'est plutôt le moment d'épargner ou de dépenser? Eh ben, jamais ils n'ont autant voulu épargner. Donc, les fourmis arbitrent, notamment en faveur de l'assurance vie, qui a enregistré une collecte record, elle, au mois de septembre, puisque même les placements les moins risqués, ce qu'on appelle les placements en euros hein, dans l'assurance vie, vont rapporter quand même 2,6% cette année, soit plus que le livret A malgré une fiscalité moins avantageuse. Les épargnants se ruent aussi sur l'or sous toutes ses formes, d'autant que les crypto-monnaies traversent une mauvaise passe, hein, c'est rien que de le dire, le Bitcoin a perdu 25% en 6 semaines.
Vous avez des trucs un peu intéressants à nous proposer, Emmanuel?
Le produit dont je voulais vous parler depuis longtemps, parce que c'est un vrai phénomène de société, c'est ce qu'on appelle les ETF ou les trackers. C'est quoi? C'est aujourd'hui le troisième véhicule d'investissement le plus détenu d'Europe. Il y a 2,6 millions de Français qui en possèdent un selon BlackRock. Alors, en gros, vous mettez la somme que vous voulez sur un placement qui va répliquer l'évolution du CAC 40, du Dow Jones ou de n'importe quel indice mondial. Depuis votre portable, vous investissez via les plateformes de banque en ligne ou votre banque normale, d'ailleurs, dans des centaines d'entreprises en une seconde, en un clic. Il y a très peu de frais. Vous n'avez pas besoin d'être spécialiste. Ça fait des bonnes performances à long terme. Donc, c'est le placement le plus moderne aujourd'hui, qui connaît la plus forte croissance. Donc, c'est un placement qu'il faut connaître. Voilà.
Les conseils d'Emmanuel Le Chypre. Merci, Emmanuel. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
À suivre sur RMC, il y a Arnaud Demanche qui arrive pour nous rejoindre. Et puis je vous redonne l'invité du face-à-face ce matin à 8h30. Ce sera le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun. Et puis après le face-à-face, face à Canteloup, c'est à 8h50 comme tous les matins sur RMC. À tout de suite, 8h11.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h14, Arnaud Demange qui rentre dans ce studio de RMC.
Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver en ce mardi. Alors même si ça part pas sur une bonne nouvelle. On a perdu Jimmy Cliff qui est décédé. Bon après en même temps, comme me disait Laurent Nunez, ça fait un narcotrafiquant en moins. Consommation personnelle. Quand il se faisait choper par les douaniers avec 100 kilos dans le coffre. Après il faut ça pour faire du bon reggae, Manu. À propos de narcotrafiquant, ouf, il est rentré, le détenu super dangereux de la super prison de haute sécurité qui est allé passer un entretien d'embauche hier à 600 km de chez lui. Il a fait une demi-journée dehors. Vous allez voir qu'il va nous sortir un bouquin pour Noël. Journal d'un prisonnier. Voilà. Sarko, il va faire « Eh oh, c'est mon livre de Noël !» Qui va embaucher un narcotrafiquant classé parmi les 100 plus dangereux? C'était quoi cet entretien? Bon, alors, donc, vous êtes sadique, vous aimez l'argent, vous n'avez pas peur de ruiner des familles, bienvenue au Trésor public. Vous êtes embauché, on est très contents. Très bon. Allez, on change de sujet avec un sujet feel good, Apolline, la Troisième Guerre mondiale. Et oui, moi cette année, les cadeaux de Noël, je les fais à la dernière minute, hein, ça peut péter. Emmanuel Macron réfléchit à un nouveau service militaire ouvert aux jeunes de plus de 18 ans, rémunéré 900 euros par mois. Voilà, 900 balles pour aller crapahuter dans la gadoue en janvier, dans les forêts des Vosges, en se faisant engueuler. Le rêve de tout adolescent. Moi, j'en connais des ados. Hein. Si on les met dans ces conditions, effectivement, on va devoir accepter de perdre nos enfants, comme le disait le général Mandon, le chef d'état-major des armées. Vous savez qu'au bureau, en ce moment, on a des stagiaires de seconde. Dans 4 ans, c'est eux qui devront se battre pour nous. Prenez des cours de russe, les amis. Ils ne sont pas prêts. Est-ce qu'on est prêts à perdre nos enfants? Xavier Dupont de Ligonnès, il a dit oui, mais nous, est-ce qu'on est prêts? 900 euros pour se faire humilier et crier dessus, je trouve que c'est quand même pas ouf, quoi. En même temps, à Bétaram, c'est le prix que les parents payaient pour qu'on fasse ça à leurs gamins. Peut-être équilibré comme budget. Alors, vous avez entendu, Louis Sarkozy proposait hier une loterie pour envoyer...
Chez nous,
à notre antenne, Voix de droite, il proposait hier une loterie pour envoyer des petits délinquants à l'armée pour en faire des Français.
Et bravo Yanis, tu as gagné un séjour à l'armée.
Et je me disais en l'écoutant, est-ce vraiment une bonne idée de prendre des jeunes narcotrafiquants, de les former au maniement des armes, à la guérilla urbaine et à se passer de sommeil? Ça pourrait mal tourner.
Qui aurait pu prédire?
Eh oui, j'en parle à Louis, on va faire un dîner débat.
Deux pandas, Arnaud, deux pandas du zoo de Beauval, repartent donc tout à l'heure pour la Chine.
Petit tourneau de Chine.
panda. Digadigada. Je ne sais plus, c'est Chantal Goya. C'est toute ma jeunesse. Une jeunesse de merde. Les Chinois nous envoient des poupées sexuelles de chez Chine. Nous, on leur envoie des pandas mignons.
Les calculs sont pas bons, Kevin.
On s'est fait avoir. En plus, c'est même pas des pandas sexuels.
Oh,
bon,
non,
après,
non.
Si on veut des pandas sexuels, c'est facile à faire. Je vous donne le tuto. Une grosse peluche, une perceuse et le tour est joué. C'est mon tuto bricolage de Noël. Donc, Huan Huan et Yuan Zi, le couple de pandas, ont passé 10 ans en France. Ils ont fait 10 ans de présidence Macron. Les pauvres, ils ont bien mérité leur retraite. Donc, ils repartent finir leur jour en Chine dans un menu B12, exactement. Non, un centre d'élevage. On va pas les manger, quand même. C'est une technique diplomatique de Chine, ça. Oui. Vous savez, hein, si la Chine veut améliorer ses relations avec un pays, elle offre un panda. Ça s'appelle la diplomatie du panda. Si la Chine veut marquer son désaccord avec un pays, elle lui offre un missile dans la gueule. Ça s'appelle la diplomatie du missile dans la gueule. Ce sont les mille nuances de la subtile diplomatie chinoise, Pauline.
Bien sûr.
Donc la Chine nous prête des pandas. En échange, on dit rien pour les Tibétains et les Ouïghours. C'est comme ça que ça marche. Tibétains et Ouïghours avec qui la Chine pratique la diplomatie du pendu. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord... Alors, vous savez que, contrairement à Afida Turner, la femelle panda naît en chaleur que 48 heures par an. Ce qui complique... l'accouplement, les pandas n'ont pas une très forte libido, c'est très compliqué d'avoir des petits pandas, c'est très difficile de faire s'accoupler des pandas. Alors j'ai une théorie qui est asiatique aussi, je pense que c'est à cause des cycles de réincarnation.
Ah.
Je ne sais pas si vous savez, mais
c'est
il paraît
que comme théorie,
dans, alors, dans la réincarnation, quand on a été très méchant, on se réincarne dans quelque chose d'inoffensif. Genre une poignée de bigorneaux, c'est une ancienne division SS.
Oh.
Donc un panda, c'est très inoffensif.
D'accord.
Je sais, ça se trouve, les deux pandas, là, c'était Émile Louis et Hitler.
Non.
Et Hitler, il a pas du tout envie de se faire cartoucher par Émile Louis qui lui dit « Allez, viens voir Papinou. Nein, nein, Heinrich, Hilfe !» Et c'est pour ça que les pandas ne se reproduisent pas. C'est ma belle théorie asiatique. Vous ne verrez plus les pandas de la même façon.
C'est complètement tendu, en tout cas.
On arrive en novembre, à fin novembre. Je suis éclaté, moi. Je cherche des trucs rigolos. Je fouille dans tous les recoins.
Alors,
allez, à demain.
Dimanche, mesdames, messieurs, tous les matins à 7h20 et 8h20. Il est 8h19. Tiens, Anthony qui nous appelle du Gard et qui est infirmier. Bonjour, Anthony.
Oui, bonjour.
Anthony, vous vouliez réagir à ce chiffre record du nombre de morts au travail, les accidents de travail. Vous-même, vous êtes infirmier et vous êtes même formé, spécialisé sur les questions de conditions du travail.
Exactement, parce que du coup, je suis donc sur le CHU de Nîmes, je suis représentant du personnel de la CGT et l'UF3SCT, qui est la commission des... d'hygiène, conditions et sécurité de travail.
Vous avez entendu tout à l'heure mon invitée, dont le mari est mort au travail, et elle disait qu'il n'y avait pas suffisamment d'inspecteurs sur ces questions-là, que
ce n'était
pas suffisamment formé. C'est votre constat ?
Ben, c'est le constat, et malheureusement, c'est aussi un résultat politique. On voit aujourd'hui que les instances comme les conditions de sécurité de travail sont de moins en moins écoutées. La politique dans les entreprises, c'est de faire plus d'activités avec moins de personnel. Donc du coup, c'est au détriment des salariés et des conditions de travail. On le voit, les syndicats, on voit souvent les syndicats en fait comme des emmerdeurs. Mais en fait, nous, on est les garants des conditions de travail aussi. Et moins il y a de contre-pouvoirs, plus il y a d'abus de la part du patronat.
Et vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils s'engagent, il faut qu'ils fassent cette formation, il faut qu'ils puissent justement être aux avant-postes de leur entreprise.
Ben oui, exactement. Il faut se former. Les salariés ont des jours de formation, hein, qui sont sur leur temps de travail pour se former à ce genre d'informations. Et on voit très bien que ils n'en profitent pas parce que tout ça c'est caché en fait. Mmh. Je suis pas du tout complotiste. Je veux pas faire de la récupération politique.
Mais disons que c'est pas suffisamment mis en valeur, mis en avant. Bah, vous savez quoi, Anthony ? Vous aurez justement permis de changer ça ce matin, puisque avec votre témoignage, vous le dites ce matin, il faut se former, il faut être plus attentif aux conditions de sécurité dans son entreprise. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir témoigné, infirmier dans le Gard. Dans un instant, dans le face-à-face, mon invité, c'est Vincent Jeanbrun. Vous vous souvenez de Vincent Jeanbrun, le maire de La Haye-les-Roses, dont le domicile avait été... visé par les émeutes des banlieues après la mort de Naël. Il est depuis ministre de la ville et du logement. Il veut notamment la fin des HLM à vie. Vincent Jeanbrun est mon invité dans un instant sur RMC BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face. Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Vincent Jeanbrun.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le ministre de la Ville et du Logement. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas encore eu le temps de s'habituer au nouveau gouvernement que Vincent Jeanbrun, la première fois que je vous avais reçu ici même, c'est lorsque vous étiez maire de la Île-et-Rose et que, au moment des émeutes après la mort de Naël, votre domicile avait été pris pour cible par des émeutiers. Un incendie avait même commencé. Votre femme avait dû tenter de s'enfuir. C'est comme ça qu'on a, à ce moment-là, j'allais dire, découvert votre visage, votre engagement. Aujourd'hui, vous êtes donc ministre de la Ville et du Logement. J'ai de nombreuses questions à vous poser, et notamment sur cet hébergement d'urgence que vous nous annoncez ce matin pour les femmes victimes de violences conjugales. Dites-nous de quoi il s'agit.
Absolument, merci de me recevoir. Effectivement, on est aujourd'hui, c'est la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc à cette occasion, avec ma collègue Aurore Berger, qui dans le gouvernement est en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, nous allons co-signer une circulaire qui permet de dire à tous les préfets maintenant comment on améliore la situation encore. Pour dire les choses simplement, ça repose sur un triptyque simple. Protéger, reloger, reconstruire. Protéger en faisant en sorte que les femmes aient tout de suite une solution pour sortir.
Tout de suite,
parce que on vient de connaître une semaine noire. 5 femmes ont été victimes de féminicides rien que la semaine dernière. 5 femmes. Et donc, il y a une urgence absolue. La priorité, c'est de faire en sorte que
les
femmes sortent de logements qui, malheureusement, bien souvent, ces logements sont devenus des prisons. Or, moi, je veux que demain, le logement devienne le refuge. On sort de la prison dans laquelle ont lieu les violences. Très très vite, il y a un hébergement d'urgence et puis le processus de reconstruction dans un nouveau logement. On reloge pour pouvoir reconstruire sa vie avec sa famille.
Quand ? Ça sera quand ?
La circulaire, elle part aujourd'hui. Ça veut dire que elle s'inspire d'ailleurs de bonnes pratiques qui avaient déjà été mises en place à certains endroits. Là, tout ça va devenir automatique. Et donc, nous allons construire quelque chose qui soit une réponse la plus réactive possible. C'est ça l'objectif. Et plus largement...
Est-ce que ça pourrait être même proposé, j'allais dire, spontanément ? On sait que d'abord, l'étape la plus difficile, c'est d'avoir parfois la force d'aller porter plainte, d'être entendu. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'à ce moment-là, dans la main tendue, il puisse y avoir l'évocation de cette possibilité-là, parce qu'elles ne le savent pas toujours. Il y a quand même une forme de solitude.
Il faut le dire, et si des femmes nous entendent aujourd'hui, vous pouvez bénéficier de cet hébergement d'urgence, même si vous n'avez pas encore porté plainte.
Même si vous n'avez pas porté plainte.
C'est ce qui est dit dans la circulaire. L'idée, c'est que, évidemment, il y a un contact avec les services spécialisés, comme le 115 par exemple, et tout de suite, vous êtes prise en charge. Ensuite vient le temps de la plainte, ensuite vient le temps des procédures. Mais l'idée, c'est qu'on puisse mettre la femme, les enfants en sécurité le plus vite possible. C'est ça qui est rappelé aujourd'hui. Et plus largement, ma collègue Aurore Berger travaille à ce qu'elle appelle une grande loi cadre, transpartisane, pour aller encore plus loin dans le droit des femmes.
On le sent bien, au fond, avec votre dossier, Vincent Jeanbrun, la ville... Le logement, vous êtes à la croisée de très nombreuses problématiques en France, qui sont des questions sociales, qui sont des questions de violence, qui sont des questions de territoire. L'une de vos premières, idées, c'était de mettre fin au HLM à vie. Est-ce que ça va se traduire par quelque chose de concret ou vous avez juste lancé l'idée ?
D'abord, on est dans une phase où la politique, c'est du débat et créer des consensus autour des idées.
Donc, ouais, enfin, il n'y a pas encore grand-chose qui s'en dégage.
L'époque où les ministres annonçaient en disant c'est comme ça et dans 10 jours, ça va être mis en place, elle est un petit peu révolue puisqu'aujourd'hui, c'est une période beaucoup plus parlementariste où on travaille avec les parlementaires, les députés. Moi, j'ai toujours aimé le consensus et le dialogue, donc frustrant non. Surtout quand on a en face de soi des parlementaires qui jouent le jeu. Et on a, malgré l'image terrible que peut donner parfois l'Assemblée, parce que vous avez des deux côtés, deux extrêmes qui jouent le chaos, vous avez à l'intérieur aussi plein de gens raisonnables avec qui on arrive à travailler sur des sujets
de fond. Est-ce que vous diriez le mot
cynisme ?
C'est le mot utilisé hier par le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui dit qu'il y a aujourd'hui au Parlement le cynisme de certains partis.
Ça va, c'est le cynisme, je reprends le mot sans difficulté, mais ça va même au-delà. En fait, c'est une hypocrisie terrible. Parce que vous avez ceux, la LFI, qui prétendent être aux côtés des plus modestes, des plus fragiles, et qui ne votent jamais quand ils ont la possibilité de le faire, uniquement pour des questions politiciennes, pour en gros tailler des croupières au PS. Et vous avez de l'autre côté le Rassemblement National, qui essaye de faire croire aux Français qu'il les protège, alors qu'en réalité, ils s'allient et votent avec les LFI très souvent pour un certain nombre de mesures complètement folles, que ce soit des impôts délirants, que ce soit des mesures qui
et au milieu, vont taper le pouvoir d'achat. Au milieu, il y a votre famille politique, les LR. Vous avez sans doute lu les mots de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui dit à propos de ce budget qu'il s'agit d'un hold-up fiscal, social, démocratique, et qui laisse entendre qu'aujourd'hui, il lui paraît impossible de le voter.
Je considère que ce qu'on vit est nouveau. On a effectivement une nouvelle période. On ne savait pas faire ça avant en France parce que soit il y avait une majorité très claire, soit elle était un peu plus relative, mais hop, 49-3 et les choses avançaient. C'est pas le choix qu'a fait le Premier ministre parce qu'il a choisi, Sébastien Lecornu, de faire confiance aux parlementaires, de faire confiance à la démocratie. On a une occasion de montrer que la démocratie, ça fonctionne et qu'on peut trouver des compromis. Et c'est ça dont il faut se saisir. Et d'ailleurs, je sais que c'est très confus vu de l'extérieur, mais il y a déjà un certain nombre de sujets sur lesquels il y a eu des accords. Il y a déjà eu des compromis.
Est-ce que sur vos dossiers à vous, Vincent Jeanbrun, vous avez l'impression de pouvoir
trouver des compromis ? C'est un très bon exemple. Sur la question du logement, de faire un grand plan de relance du logement, eh bien, il y avait une copie du gouvernement qui a servi de base de dialogue. Et puis, on a été discuté avec le groupe de la droite républicaine qui est très à l'écoute sur les sujets de la crise du logement, mais également avec le groupe écologiste, également avec le groupe communiste, également avec le groupe socialiste, parce qu'au fond, ceux qui font l'effort d'aller écouter les élus locaux, les maires de toutes ces étiquettes, eux nous disent, bah moi sur le terrain, la crise du logement, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de comment on fait en sorte qu'il y ait des logements pour que les Français se logent correctement.
Vous y croyez
et
à
donc,
ce budget ?
On avance. Mais je peux vous dire en tout cas que sur mes thématiques, et sous le contrôle de la ministre du budget qui a géré ce dialogue dans l'hémicycle, on a réussi à avoir un amendement qui était beaucoup plus dépensier que ce qu'aurait aimé Bercy, qui était peut-être un peu moins généreux vis-à-vis des investisseurs particuliers que ce qu'aurait aimé une partie de la droite de l'hémicycle, mais qui était beaucoup plus social, etc.
C'est et on a chacun trouvé a fait un chemin.
En équilibre, tout le monde a fait un chemin, c'est donc possible.
Enfin, ça ne passera que si à la fin ce budget est adopté.
Tout à fait, merci de le rappeler. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui dépendent de l'adoption d'un budget. C'est vrai pour relancer le logement en France, c'est vrai pour la loi de programmation militaire, on en parle beaucoup en ce moment, c'est vrai pour sauver nos agriculteurs qui ont besoin, et Annie Genevard se bat pour apporter un certain nombre de dispositifs dans ce budget. Effectivement, si le budget tombe, ça ne marche pas. C'est très important parce que j'ai lu que certains parlementaires, un, nous disent « crise démocratique », vous citiez Bruno Retailleau, c'est quand même incroyable. Quand on donne la main, on donne les rênes au Parlement, on nous explique que ce serait pas de la démocratie. C'est assez étonnant. Et puis ensuite, j'hallucine quand je vois certains responsables politiques qui nous disent « c'est pas de budget, il y aura une loi spéciale, tout ira bien, c'est extraordinaire ». Mais attendez, faut que les Français se rendent compte. La loi spéciale, déjà, ça n'existe pas sur le budget de la sécurité sociale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vote du budget, de la partie sociale, là, le PLFSS, pardon pour le sigle, il n'y a pas de budget pour la Sécu. Donc, c'est pas bon. Je veux juste vous le dire simplement, c'est pas bon. Et sur le budget, il peut y avoir une loi spéciale. Cette loi spéciale, ça veut dire globalement, il n'y a plus d'économie. Parce que c'est les mêmes qui vous disent, il faut faire plus d'économie. Loi spéciale, il n'y a pas d'économie, ça coûte très cher. Il n'y a plus du tout d'investissement, il n'y a plus d'innovation, et il n'y a plus de pluriannuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas investir sur plusieurs années. Ce qui est terrible en matière de rénovation urbaine,
mais
le sujet que je porte, c'est terrible.
Vous parlez, en matière de Vincent Jeanbrun, c'est donc, notamment votre ancienne, ou je ne sais plus si vous êtes encore dedans, pas dedans, enfin, LR.
Je suis suspendu, mais.
Vous êtes suspendu.
C'est pas le sujet.
Ça veut dire que vous n'êtes pas éjecté, non. Vous pourriez revenir, mais en tout cas, pendant un moment, vous n'y êtes plus.
Moi, je vais vous dire simplement, je suis à la tâche, je suis au travail, et j'ai pas perdu les valeurs qui sont
mais
les miennes.
Mais est-ce que vous nous reconnaissez encore dans le parti LR?
Bah écoutez, on va voir quelle ligne défend le parti LR aujourd'hui, mais pour l'instant, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de faire en sorte que la crise du logement, on en sorte dans ce pays, que toutes les personnes qui ont besoin d'un hébergement d'urgence, on est au début de la trêve hivernale.
Fait
il y a des gens
de
qui peuvent
mourir de froid. Mais vous étiez
porte-parole d'LR.
Ça du fait groupe, pas. J'étais porte-parole du groupe, ouais, à l'Assemblée
groupe
nationale.
À l'Assemblée,
et vous aurez
LR.
Noté que le groupe à l'Assemblée nationale travaille, trouve des consensus, tout en ayant une ligne très claire.
Vous êtes en train de me dire qu'il y a une petite distinction entre le groupe de Laurent Wauquiez et la direction Bruno Retailleau, quoi.
Que j'apprendrai qu'il y a des différences. Parce que nos parlementaires, ils sont au travail et ils sont en train d'essayer de trouver des solutions pour faire avancer le pays. Ils sont du côté de l'ordre et pas du chaos.
Est-ce qu'à un moment, il faut que ce soit plus clair, plus franc et qu'il y ait une vraie scission?
C'est pas à moi de commenter ces débats-là, mais en tout cas, il y a des débats au sein de la famille de la droite. C'est bien, c'est sain. Moi, aujourd'hui, je suis au gouvernement. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'essaie de faire en sorte qu'il y ait des débats et du dialogue à tous les niveaux.
Une question.
Il existe un chemin pour qu'on vote ce budget.
Il existe un chemin pour qu'on vote ce budget. Vous faites partie de... j'arrive jamais à savoir, quand j'ai écouté les mots du Premier ministre hier, qui disait à peu près la même chose que vous, qui disait qu'il y croyait encore, j'arrive pas à savoir si c'est de la méthode Coué, si c'est, si on le dit, ça va marcher, ou si c'est une manière d'essayer encore de justifier simplement les jours qui viennent.
On a un gouvernement de combat. On a un gouvernement qui aujourd'hui n'est pas là avec des ambitions.
Oui, tous dit que vous étiez dans... J'ai jamais vu un gouvernement qui disait pas qu'il était au combat.
Bon, en tout cas, moi, je peux vous dire que là, on n'est pas là pour des ambitions 27 ou je ne sais quoi. On est là pour essayer, chacun dans nos domaines, de faire avancer le sujet. Sur des sujets concrets, on a parlé de protéger les femmes victimes de violences tout à l'heure. Il y a une crise terrible du logement aujourd'hui en France. Les Français n'arrivent plus à se loger. Moi, j'ai la mission d'essayer de faire avancer les choses. Sans budget, on n'y arrivera pas. On pourra pas changer la donne. On a eu un débat sur le fait de protéger les Français des menaces extérieures. Sans budget, on ne financera pas notre défense. Voilà. Et ceux qui pensent qu'on peut jouer avec le feu ont tort. Donc on mettra chacun devant ses responsabilités. Il faut comprendre une chose, le budget qui est actuellement en débat n'est plus le budget du gouvernement. C'est un budget qui a été modifié, qui a été amendé, qui a été transformé. C'est donc le budget du Parlement.
Et c'est la vie au fond, et c'est ce que vous dites. Vous dites c'est absurde de dire que c'est pas démocratique, puisque précisément à vos yeux, ça l'est encore davantage. J'ai encore des questions sur les squats, sur les taxes foncières, mais puisque vous évoquiez le groupe LR à l'Assemblée, Laurent Wauquiez propose une loi pour interdire le voile à toute personne mineure. Vous seriez encore député, vous la voteriez ?
J'ai pas vu le texte précisément. En tout cas, moi, je me souviens en tant que maire d'avoir été interpellé, déjà personnellement et par des citoyens.
Ancien maire de l'Île-et-Rose.
Ancien maire de l'Île-et-Rose. Parfois, de manière très exceptionnelle, des fillettes très, très, très petites. Très petites. Je dirais autour de 7 ans, l'âge de ma fille aujourd'hui, qui était, non pas avec simplement un voile sur la tête, mais qui était voilée de noir, de pied en cap, avec des gants noirs. Et c'était encore l'époque où il était normal d'avoir un masque Covid. Effectivement, c'est surprenant et ça interpelle. Maintenant, moi j'ai toujours considéré que le pays laïque dans lequel nous sommes doit poser la question de la présence de tous les signes religieux ou pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une distinction spécifique à une religion, selon moi. Mais c'est des débats que j'avais pu avoir, y compris avec
François Barman,
sur le fait que probablement la religion doit être ramené dans un espace peut-être plus personnel parfois, et donc ça veut dire qu'il y a des endroits, c'est vrai aujourd'hui de l'école, mais peut-être demain les services publics, on peut se poser une question à ce niveau-là. Le débat, en tout cas, il fait jamais de mal, il permet d'avancer sur ces sujets.
Mais vous ne vous prononcez pas aujourd'hui pour l'interdiction du voile au moins de 18 ans? C'est ça la question que pose Laurent Wauquiez, elle est très précise, hein, il dit interdiction, voire même punition des parents si leur enfant est voilé.
Le sujet, c'est de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc comment on protège ce pilier de notre République, et tout ce qui va dans le sens de protéger nos jeunes filles ira dans le bon sens. Maintenant, il faut que ce soit efficace et que ce soit quelque
chose. Mais si c'est constitutionnel, si c'est possible, vous diriez oui.
Je fais pas de politique fiction.
Mais vous y seriez favorable à cette interdiction.
Aujourd'hui, des fillettes voilées de pied en cap et gantées de noir, moi, ça me pose un sujet, et l'interpellation de Laurent Wauquiez, elle pose cette question-là. Donc, que le débat puisse avoir lieu à l'Assemblée, c'est toujours une bonne chose.
Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, la taxe foncière, 7,4 millions de foyers vont voir leur facture alourdie sur des critères qui sont notamment le fait d'avoir tout simplement accès à une salle de bain ou à des WC. Est-ce que franchement, c'est pas le truc de trop ?
Moi, j'étais surpris en le voyant.
Vous-même surpris, vous-même ministre du logement, avouez que c'est déliant.
On voit que Bercy, là-dessus, a voulu avancer sur une réforme qui est annoncée depuis des années, voir comment on met à jour aujourd'hui ce qu'on appelle les valeurs locatives, en l'occurrence. Maintenant, effectivement, là, au moment où on est sur le budget, c'était pas le moment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une volonté du gouvernement de pouvoir suspendre l'application de cette mesure. Parce qu'encore une fois, c'est en plus les mots choisis.
Donc vous allez y arriver?
Les mots choisis étaient très particuliers. Voilà,
le confort. Mais surtout, est-ce que ces critères-là, qui sont des critères qui datent des années 60, doivent encore être ceux sur lesquels on décide de ce qu'on paye comme taxe foncière ou pas?
Probablement que la vraie réforme, elle nécessiterait d'être vraiment dans une nouvelle logique, des nouveaux paradigmes. Et là, on n'est pas dans le moment pour le faire, objectivement.
Donc vous, en vrai, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous ne pouvez rien faire.
C'est-à-dire?
Vous n'allez pas pouvoir la suspendre, cette augmentation.
C'est pas ce que je vous dis, non. Je sais qu'il y a la volonté du gouvernement pour le faire, c'est pas à moi de l'annoncer, mais...
Mais vous pensez pouvoir, à un moment ou un autre, suspendre, avant, c'est septembre, hein, ouais. Le moment où les Français, où c'est 7,4 millions de foyers supplémentaires vont devoir le payer, c'est septembre. D'ici septembre, vous avez le souhait de la suspendre.
Il y a la volonté du gouvernement de pouvoir suspendre cette mise en application pour remettre tout ça à place. Ça veut pas dire qu'il y aura jamais de réforme encore une fois, la valeur locative sur laquelle est calculée la taxe foncière. Il y a un moment donné, il va falloir moderniser tout ça. Je vous le dis pour une raison simple. Moi, je l'ai vu, je suis passé d'un petit appartement à La Haye-les-Roses à une maison. Et le jour où on est passé de l'un à l'autre, la taxe foncière a baissé parce que la maison était plus ancienne que l'appartement. Donc vous avez un petit appartement, vous payez plus de taxes foncières que la maison. On voit bien qu'il y a nécessité de repenser les choses. Pour autant, on n'annonce pas ça comme ça sur des critères que personne ne comprend.
Mais vous espérez donc pouvoir le suspendre. Vincent Jeanbrun, la marche blanche à la mémoire du frère d'Amine Kessassi samedi, vous y étiez pas. Alors je comprends, votre avion a pas décollé, mais pourquoi vous avez pas sauté dans un train? Vous êtes le maire de la ville, le maire du logement. Comment c'est possible?
Écoutez, c'était particulièrement douloureux. J'avais envie d'être aux côtés d'Amine, de sa maman, de sa famille. J'étais avec la porte-parole du gouvernement, on était avec deux anciens premiers ministres, Dominique de Villepin et Gabriel Attal. Et effectivement, on est resté coincé sur un tarmac à Roissy. C'est ridicule tellement c'est parce qu'il n'y avait pas le dégivrage d'abord, puis ensuite le personnel qui
donc
avait changé.
Donc vous étiez déjà dans l'avion quand
on
ça a été arrêté.
Dans l'avion.
D'accord.
Donc je pas
sinon,
dans
j'avoue que je me disais, je comprends pas très bien pourquoi vous n'avez pas juste détourné votre route pour aller à la gare. Quoi.
On est bien d'accord. Donc j'étais dans l'avion, on a passé plus d'une heure et quart, je crois, dans l'avion. Ensuite, on est descendu de l'avion, on a essayé de voir s'il y avait pas un autre vol à Roissy, à Orly, pardon. Enfin bref, je peux vous assurer qu'on a mis tout en œuvre.
Vous les avez eu au téléphone ?
J'ai évidemment appelé Amine, un garçon d'un extrême courage. Vous l'avez vu, vous l'avez reçu sur ce plateau dans une émission qui d'ailleurs était pleine d'émotions, mais qui au regard de tout ce qu'on avait pu vivre avec ma famille, on était particulièrement touchés par le courage de ce garçon, de sa maman aussi, qui est extrêmement courageuse. Et typiquement le genre de famille exemplaire qu'on a envie de défendre. Et aujourd'hui, si je suis heureux d'être ministre de la ville, en fait, de tous les quartiers politiques de la ville, tous les quartiers prioritaires, c'est aussi pour aller soutenir et aider des garçons comme Amine.
Il demande plus de services publics. Il dit que c'est aussi vraiment des efforts sur l'éducation qu'il faut faire, oui, sur les jeunes. Est-ce que vous allez vous rendre sur place? Est-ce que vous allez les rencontrer?
Oui, on va évidemment aller sur place. J'accompagnerai le président de la République qui ira à Marseille très
mi-décembre.
Prochainement. J'avais prévu de m'y rendre juste avant justement l'assassinat du frère d'Amine. On devait y aller avec le ministre de l'Intérieur. Finalement, on a dû décaler nos plans. Mais je suis chargé dans mon portefeuille ministériel de Marseille en grand. Et donc, à ce titre, j'irai évidemment aussi souvent que nécessaire. Et je partage ce qu'a dit Amine sur le fait qu'il y a évidemment une absolue nécessité de rétablir une sécurité. C'est-à-dire une forme de répression de la criminalité. C'est une évidence, c'est la première étape. Mais derrière, il faut évidemment aller ensuite nourrir la prévention. Et la meilleure des préventions, c'est la culture. Vous savez, hier, j'étais en Seine-et-Marne chez Jean-François Copé à Meaux. Et on a regardé l'avant-première d'un film sur les
rixes. Dites-vous. Mais pardon, ils étaient les représentants de la culture à Marseille?
Il a prouvé Jean-François Copé à Meaux.
Ils étaient où, les rappeurs, les chanteurs? Ils étaient où, le sport? Ils étaient où?
C'est une bonne question. En l'occurrence, il faut qu'on remette Mais vous savez, c'est pas le show business qu'il faut remettre au cœur des cités.
Mais à un moment, il y a peut-être aussi une question de modèle, d'exemple, non?
Je suis bien d'accord. D'ailleurs, vous voyez, au JO, c'est quasiment que des jeunes athlètes qui sortent de nos quartiers prioritaires, qui sont là. Donc c'est dire s'il y a des talents dans ces quartiers prioritaires. Mais je veux revenir d'un mot, si vous me permettez, sur ce que j'ai vu hier soir. J'ai vu des jeunes qui avaient participé à des rixes, à de la violence à Meaux, et parce que justement la municipalité a mis en place des services publics sur la culture, sur le sport, de l'accompagnement.
Et pour vous, une manière de les sortir.
Ils sont devenus non seulement des grands frères qui aujourd'hui font des films pour dire plus jamais ça.
Merci Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50.
face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, mon invité, rebonjour Vincent Jeanbrun.
Bonjour.
Vincent Jeanbrun, le ministre du Logement. Et tiens, il y a Jean-Louis Borloo aussi qui voulait réagir. Bonjour, monsieur Borloo.
Oui, bonjour. Ben Vincent Jeanbrun, on le connaît, c'est le Bradley Cooper du Val-de-Marne. Hein, c'est le to-be-free du 9-4. Quand on a l'œil, on voit, on est les mêmes. Ben oui. Non, mais attends, Apolline.
C'est pas ce que j'aurais dit spontanément.
Non, si t'enlèves le physique, l'âge, la barbe, la carrure, les deltoïdes, les pectoraux, on est pareil.
Ah oui.
C'est mon sosie. C'est, on dirait Thibaut Texer qui a fait de la chirurgie esthétique. Voilà. Thibaut. Parce que tous les deux, avec Vincent, on a la passion de la ville, tu vois. T'étais allé déjà dans sa ville, Léréose.
Oui.
Le niveau d'équipement de sa ville.
Ah oui.
Niveau d'équipement, t'as des rues.
Ah oui, c'est vrai, j'en ai vu.
T'as des ronds-points, des trottoirs, des caniveaux magnifiques. J'en ai connu des caniveaux. Mais alors, des comme ça, jamais. Bon. Il manque juste un aéroport avec du dégivrage, voilà, mais à part ça, il y a...
En tous les cas, c'est un jeune ministre qui a eu donc une ascension très rapide, hein, monsieur Jeanbrun.
Mais oui, mais c'est mérité. Parce que Vincent Jeanbrun, tu vois, on le sent dans son regard. C'est un gars généreux. En 2023, tu sais ce qu'il fait, le gars? Il a invité des jeunes des quartiers chez lui.
Ah oui.
Il leur a dit, venez à la maison, les gars. Puis n'hésitez pas, si vous voulez, défoncer mon portail avec votre bagnole. Ça peut m'aider à devenir ministre du Logement. Eh ben, ça a marché.
Il n'est pas d'accord, Vincent Jeanbrun. Je le vois, il n'est pas d'accord.
Mais attends, mais demain, il se fait défoncer le portail du ministère du Logement. Et il file à Matignon.
Ah oui.
Allez.
Ah, merci Jean-Louis Borloo, en tout cas. Tout de suite, les titres de l'actualité avec Thibaut Texer.
Oui, bonjour Apolline. Ici le sosie de Vincent Jeanbrun. Le seul journaliste dont la voix fait plus peur que les déclarations du général Mandon. C'est parti pour les titres. Les deux pandas, Wan Wan et Wanzi, font leurs adieux à la France après 13 ans passés aux eaux de Beauval. C'est la première fois qu'un produit de fabrication chinoise tient aussi longtemps. Emmanuel Macron souhaite réagir.
Oui, merci cher Thibaut Texer, bonsour à Vincent Jeanbrun. Je souhaitais m'adresser à nos amis chinois.
Oui.
Puisque vous souhaitez récupérer de grands animaux avec des poils noirs et blancs qui n'en foutent pas une, si en plus de Beauval vous pouviez faire un détour par le Havre pour me débarrasser de mon Édouard Philippe.
Oui, bien sûr. Merci pour cette intervention, monsieur le Président. À vous, Thibault.
Oui, lors de l'incinération de la légende du reggae Jimmy Cliff, de nombreux rires ont été entendus dans l'assistance, mais pour une fois, ce n'était pas la faute du protoxyde d'azote. Et puis, dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, Laurent Nunez et Gérald Darmanin veulent interdire au Tour de France de passer par Marseille.
Et justement, nous sommes en ligne avec Sébastien Delogu, candidat LFI à la mairie de Marseille, qui souhaitait réagir.
Des aides pesantes, poum poum. Écoutez, nous, la France insoumise, nous avons une solution radicale pour en finir avec le narcotrafic. Il suffit de ne plus parler de trafic de drogue et d'appeler ça réseau de soins phytothérapiques de proximité.
Ah mais oui, mais quelle bonne idée, voilà. Monsieur Delogu.
Ça règle le problème. Hein, tout de suite, ça fait moins peur, on se sent plus en sécurité. Je voulais préciser que cette idée brillante, nous la devons à notre collègue Louis Boyard, député. C'est notre spécialiste à France Insoumise, puisqu'il a fait des études. Il a fait maths stup. Spécial dédicace à Jean-Luc Mélenchon. Poum poum.
Poum poum des aides. Merci Sébastien Delogu. Éric Zemmour, vous vouliez aussi réagir à ces propositions.
Écoutez, je crois qu'il est urgent, franchement, d'arrêter avec cet angélisme, hein, et de retrouver notre souveraineté. Faut faire sortir la France, j'en parlais, sortir la France de l'Europe, rouvrir les bailles acadiennes, hein, interdire les insoumis, et puis surtout, rattacher Marseille à l'Afrique.
Ah oui, merci, Éric Zemmour, pour cette proposition. L'affaire fait grand bruit, l'un des 100 détenus les plus dangereux de France a obtenu une permission de sortie. Oui, Nicolas Sarkozy, oui.
Non, mais attendez, Mme Malherbe, un des plus dangereux de France, faut quand même pas exagérer, surtout en plus, tout le monde sait que je suis innocent.
Non mais enfin, je ne parlais pas de vous, Monsieur Sarkozy. Il s'agit d'un grand trafiquant de drogue incarcéré à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vielle.
Une prison de haute sécurité. Et il a pu sortir. Mais c'est qui dirige cette prison?
C'est le gars qui est responsable de la sécurité du Louvre, c'est ça?
Bon, bah écoutez, monsieur Sarkozy, on va plutôt parler de votre livre, votre livre événement. Le journal d'un prisonnier, c'est pas un peu pompeux quand même comme titre, vous êtes resté 20 jours?
Non, mais je suis d'accord, Mme Malherbe. D'ailleurs, c'était pas mon premier choix, parce que moi, je voulais appeler ce bouquin La vache et le prisonnier.
La vache et le prisonnier? Non, mais attendez, ça existe déjà, c'est un titre de film. Puis bon, il n'y a pas de vache en prison.
Ouais, enfin, la juge, pardon, mais c'était quand même une peau de vache.
Ah oui, ah,
on est d'accord.
Vu comme ça.
J'avais pensé aussi à 50 nuances de grec.
Ah oui,
hein, c'est rapport au yaourt grec, parce que j'ai à peu près bouffé tous les parfums. D'ailleurs, j'en profite que je serai bientôt en dédicace à Neuilly, au Monoprix. Au produit frais.
Au produit frais, merci monsieur Sarkozy. Le gouvernement va envoyer aux Français un guide de survie en cas de crise grave. Il est recommandé de stocker un pack d'eau, des piles, des conserves, des médicaments. François Ruffin.
Apolline de Malherbe, je le dis, oui, face à Vincent Jeanbrun, je dis, ça suffit. Il le sait dans les villes, il le sait dans les logements. Les Français, la majorité française s'en sortent même pas en travaillant pourtant 35 heures par jour. Les Français, ils seraient bien contents s'ils pouvaient s'offrir un kit de survie avec 3 bouteilles d'eau, 2 boîtes de thon, une pile et un réchaud à gaz. Hein. Mais ils ne peuvent pas, les Français, ils doivent attendre qu'il pleuve pour pouvoir boire dans des flaques d'eau. Ils doivent attendre une prochaine lettre de relance de leur facture impayée d'EDF pour pouvoir avoir enfin du papier et pouvoir allumer un feu. Et pour s'éclairer, ils sont obligés de faire des bougies avec du cérumen. Mais si, aujourd'hui, c'est ça, il le sait, Vincent Jeanbrun, c'est ça, la vie des Français, alors je dis, ça suffit.
Vous avez quand même tendance à exagérer, monsieur Ruffin. C'est quoi votre solution à vous, tiens?
Mais il n'y a pas de solution. La seule solution pour les Français, pour vivre enfin dans des conditions confortables, c'est de s'inscrire à Koh-Lanta.
Merci beaucoup Nicolas Cantelou, merci à Vincent Jeanbrun d'être resté avec nous face à Cantelou dès demain 8h50 et à tout moment en podcast.